Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil, c'est lundi, mais on est ensemble jusqu'à 9h dans Apolline Matin, lundi 9 février 2026. Dans 10 minutes, je reçois l'avocat de deux gilets jaunes qui avaient été matraqués par des CRS. C'était, souvenez-vous, il y a 7 ans, à l'intérieur du Burger King des Champs-Élysées. Le procès de 9 CRS s'ouvre aujourd'hui. Les violences policières ne sont pas assez sanctionnées. Voilà le parti pris de cet avocat, l'avocat Arié Halimi, dans ce studio dans un instant. N'hésitez pas, vous aussi, à réagir, vous le savez, au 32-16. Et puis à 7h40, on va parler de vos salaires. Vous gagnez plus ou moins que vos collègues à poste équivalent? Vous aurez bientôt la réponse parce que à partir de juin prochain, la transparence des salaires va devenir obligatoire dans les entreprises. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vos prochaines négociations? Vous êtes chef d'entreprise, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il peut y avoir un manque de cohérence dans les entreprises? Vos réactions, appelez-nous au 32-16. Venez donc témoigner ou sur le WhatsApp d'RSMC 0612 424 424. Et puis à 8h30, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui sera mon invité dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. Dans un instant, le journal de 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Qui sont les 6 personnes interpellées après le rapt d'une magistrate grenobloise et de sa mère? L'enquête suit son cours et d'autres suspects sont toujours recherchés ce matin. Un affront à la grandeur de l'Amérique. Sans surprise, Donald Trump est trahi. Le spectacle du rappeur Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl cette nuit aux États-Unis. Et l'OM giflé par le PSG hier soir en Ligue 1. Battu 5-0 au Parc des Princes. Revers historique dans un classique.
6 personnes interpellées et placées en garde à vue après le rapt d'une magistrate grenobloise.
Elle a été enlevée et séquestrée la semaine dernière en Isère avec sa mère. Les deux femmes ont finalement réussi à s'échapper avant d'être retrouvées blessées vendredi matin dans un garage de la Drôme. Tout est allé très vite dans cette affaire en lien avec les crypto-monnaies puisque les auteurs du rapt ont réclamé une rançon aux compagnons de la magistrate. Et à 7h, il est toujours impossible, Martin Bourdin, de définir le rôle de ces 6 suspects, tous très jeunes.
Oui, la dernière personne interpellée hier après-midi est même mineure. Les 5 autres mis en cause, eux, 4 hommes et une femme, sont âgés d'une 20aine d'années. D'après BFM TV, des suspects retrouvés en banlieue de Lyon et à Chambéry grâce à la mobilisation de plusieurs services, notamment la BRI, pour leur mettre la main dessus rapidement. 2 d'entre eux, interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, étaient d'ailleurs sur le point de prendre un bus pour l'Espagne. Les gardes à vue doivent permettre de comprendre leur rôle précis dans l'enlèvement et la séquestration de la magistrate et de sa mère. Les deux femmes enlevées près de Grenoble dans la nuit de mercredi à jeudi avaient réussi à se libérer elles-mêmes pour ensuite taper sur la porte du garage où elles étaient enfermées, prévenir le voisinage et s'échapper. D'autres personnes sont toujours recherchées dans cette affaire.
Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. 9 CRS devant la justice jugés pour avoir matraqué des gilets jaunes réfugiés dans un Burger King. Les faits remontent au 1er décembre 2018, journée particulièrement violente marquée par des dégradations autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Autre procès, celui d'une professeure de français jugée en appel pour harcèlement, soupçonnée d'avoir régulièrement humilié l'une de ses élèves, Eva L, 11 ans. Elle s'était donné la mort en 2019. 2 autres cas de harcèlement seront étudiés lors de ce nouveau procès. En première instance, l'enseignante avait été relaxée.
Et puis c'était l'événement de la nuit aux États-Unis, le Super Bowl.
Remporté par les Seahawks de Seattle face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, au-delà de l'enjeu sportif, tous les regards étaient tournés vers le spectacle à la mi-temps de cette finale de football américain avec la prestation du rappeur Bad Bunny, anti-Trump déclaré. Le Portoricain avait livré, on s'en souvient, un discours très offensif la semaine dernière contre la police de l'immigration au Grammy Awards. Antoine Lard, à Washington pour RMC ce matin. On était curieux de savoir si Bad Bunny allait de nouveau s'en prendre au président américain. Ça n'a pas été le cas et pourtant, ça n'a pas empêché Donald Trump de réagir.
Oui, sur son réseau social, Donald Trump, très offensif, dénonce la performance de Bad Bunny. Il dit que c'est un affront à la grandeur de l'Amérique. Il s'en prend aussi aux chorégraphies, jugées dégoûtantes des danseurs qui l'accompagnaient. Et puis, il critique ses chansons en espagnol. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce type, poursuit Trump, oubliant ou faisant semblant d'oublier les 41 millions d'hispanophones vivant aux États-Unis. Ce concert du Super Bowl était pourtant avant tout un moment festif. Bad Bunny a enflammé la mi-temps avec ses tubes salsa et reggaeton, un spectacle pour célébrer Porto Rico et la diversité. Le seul message finalement qu'il a délivré à la fin du concert a été un message d'unité. Ensemble, nous sommes l'Amérique, a conclu en espagnol le chanteur.
Il est utilisé chaque jour par des millions d'habitants en Île-de-France. Le Pass Navigo qui permet d'utiliser les transports en commun. Et il a fait l'objet du premier couac de la campagne des municipales à Paris avec la réaction de Sarah Knafaud, candidate reconquête pour la mairie de Paris, Romain Houga.
Oui, Sarah Knafaud était l'invité de Marc Fauvel hier soir sur BFM TV. Vient alors cette question.
Si je vous demande le prix du Pass Navigo mensuel à Paris.
Annuel 52.
Non.
Dites-moi.
Annuel 52. Bah, si c'était 52 euros par an, ça ferait des heureux. Hein.
52 euros annuels, soit 4,30 euros par mois. C'est tout simplement 20 fois moins que le prix réel de 90,80 euros par mois. Un gros lapsus tente de se justifier à la candidate reconquête quelques moments plus tard sur ses réseaux sociaux. Mais trop tard, ses adversaires aux élections municipales multiplient les talques. Pierre-Yves Bournazel, tête de liste Horizon Renaissance, dénonce une méconnaissance du quotidien des Parisiens. Dans le camp d'Emmanuel Grégoire, candidat de l'Union de la Gauche, on pointe l'étendue de sa déconnexion. Des connexions jugées même disqualifiantes parmi les soutiens de Thierry Mariani, tête de liste du RN dans la capitale.
Méconnaissance du quotidien, déconnexion des politiques, ça inspire notre voix de droite ce matin, comme tous les lundis. Et c'est Charles Consigny, ce sera donc à 7h50. Ne manquez pas sa réaction et son billet.
125 000, c'est le nombre de voitures déclarées volées en 2024 en France, chiffre en baisse. Pour autant, la France reste championne d'Europe dans le domaine avec un vol toutes les 4 minutes. Les détails à suivre dans le journal de 7h30.
Et je suis vraiment désolé Thibaut, mais je suis obligé de le dire. Marseille a été humilié hier soir à Paris.
Voilà, merci, au revoir.
Je suis désolé.
Face au rival parisien, donc, l'OM n'a pas montré grand-chose hier soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, si ce n'est le néant battu 5-0. Une claque monumentale qui restera dans les annales et marque Arthur Perrault, le grand retour du PSG à la hauteur de son statut.
Oui, après un début de saison en dents de scie, Paris sonne la révolte. Le plus large succès de son histoire dans le classique face à l'ennemi juré marseillais. Une première place au classement, l'entraîneur Luis Enrique est aux anges.
Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nos supporters. Je pense qu'on a marqué encore l'histoire parce que jamais on avait gagné 5-0 à Marseille dans un classique. C'est important et c'est quelque chose que nous savons que nos supporters méritent.
Pour retrouver des couleurs, Paris s'en est remis à une prestation XXL de l'attaquant Ousmane Dembélé. Deux buts et une passe décisive. Pour le Ballon d'Or 2025, le grand PSG de retour.
Et c'est un match important pour tous les Parisiens. Et c'est une belle manière de faire passer un message en gagnant ce match-là. On a bien négocié la première partie de saison. On sait que les moments importants vont arriver. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, on a Lens qui sont toujours là derrière. Et voilà, on va donner le maximum.
Un état de grâce que Paris devra confirmer en Coupe d'Europe avec un déplacement dans une semaine à Monaco.
Et au classement, l'OM recule d'une place, quatrième ce matin derrière Paris, Lens et Lyon. Autre classement, et celui-là, il est important. Celui des nations au jeu de Milan-Cortina. La France est septième ce matin grâce à ses deux premières médailles. La première en argent sur le ski athlon pour Mathias Desloges. L'autre, elle est en or pour le relais mixte en biathlon. Perrault, Fillon-Maillet, Jean Monod et Simon. Quatre Français champions olympiques à l'issue d'une course parfaite qui lance l'équipe de France de la discipline de la meilleure des manières.
Oui, sur le podium, médaille d'or autour du cou, entouré de ses coéquipiers. Lou Jean Monod ouvre grand les yeux.
Oui, je suis fière de faire partie de cette équipe qui est très forte. Et c'est fou les émotions que ça procure, c'est difficile à mettre des mots dessus. Je fais mon mieux pour me gaver de la moindre seconde, et parce que je sais que demain ce sera fini et voilà, je profite.
Comme elle, Éric Perrault disputait sa toute première course aux Jeux Olympiques et il réalise déjà un premier rêve.
Quand on le vit, c'est intense, c'est court, puis c'est simple finalement. La Marseillaise, c'est des moments magiques, on n'en vit pas beaucoup dans notre vie et ces moments-là resteront forcément gravés à jamais.
Un titre qui soulage le poids des attentes immenses sur les épaules de l'équipe de France de biathlon.
Ça compte énormément de lancer l'équipe, de se lancer nous-mêmes, de lancer tout le collectif France qui est aussi sur d'autres sites.
L'entraîneur de l'équipe de France masculine, Simon Fourcade.
Elle fait du bien, elle récompense la meilleure nation actuelle en biathlon. Elle est légitime, c'est une grosse satisfaction d'avoir réussi à tenir ce rôle et à l'assumer jusqu'au bout.
Julia Simon, la dernière relayeuse, contemple sa première médaille d'or olympique.
Ouais, elle est belle, elle est sympa. Hein. Ouais, on espère que c'est la première d'une petite série, on verra.
La Marseillaise pourrait bien devenir le tube de ces JO pour le biathlon.
Julien Richard, qui a commenté donc cette course. On espère qu'il y aura d'autres médailles aujourd'hui, avec notamment le combiné alpin masculin. Vous ne manquerez rien de cette nouvelle journée olympique sur RMC Radio officielle des Jeux de Milan-Cortina.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08. On part au 32-16. Johan qui nous appelle de Reims. Bonjour Johan.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Johan? Vous vouliez... Merci, mais oui, c'est la Sainte Apolline, c'est sympa d'y penser. Merci Johan. Johan, dites-moi, cette obligation, les entreprises qui vont devoir donner les salaires, les grilles et puis les salaires précis de toute l'entreprise, ça ce sera en juin prochain. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle ou que ça vous inquiète?
Moi, je trouve que c'est une aberration pour la simple et bonne raison que, en gros, on favorise encore la médiocrité. Dans le sens où le salarié qui est efficace, qui est bon, qui est ponctuel, ouais. Il va être augmenté beaucoup plus facilement. Et celui à côté qui, lui, est beaucoup, on va dire, fait son travail de base sans essayer de s'améliorer, va pouvoir réclamer le même salaire.
Ce que vous voulez dire, c'est que lorsqu'il y avait une individualisation davantage effectivement des salaires, on pouvait augmenter ceux dont on estime qu'ils sont plus méritants, quoi.
Bien sûr, c'est exactement ça. Mais une entreprise devrait fonctionner par méritocratie. Le problème, c'est qu'on est en train de mettre des règles dans tout qui lisent tout et qui font que. En gros, on favorise la médiocrité, quoi, tout simplement.
Vous redoutez que ça tire tout le monde vers le bas, quoi.
Exactement.
Dans votre entreprise, vous, Johan, ça marche comment?
On est plus ou moins mérite. On a une grille de base, parce qu'on est, on n'a pas le choix, parce qu'on est obligé.
Ouais.
Mais la personne qui est plus compétente, forcément, est mieux payée. Et c'est tout à fait logique. On a des personnes, dès qu'on a une heure sup à faire, qui sont les premiers à dire on y va. Ceux-là, c'est normal qu'ils soient mieux payés et qu'ils soient récompensés, en fait.
Merci Johan de votre réaction et de votre témoignage ce matin. Johan qui nous appelait de Reims, ne manquez pas à 7h40 dans une petite demi-heure maintenant toutes les explications, comment ça va fonctionner, quelles conséquences, et d'ici là effectivement vos appels au 32-16 sur cette transparence obligatoire désormais des salaires. Il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les violences policières ne sont pas assez sanctionnées. Voilà votre parti pris ce matin. Ari Halimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de deux manifestants qui ont été roués de coups, frappés à coups de matraque, le tout filmé lors de l'acte 3 des Gilets jaunes. C'était il y a plus de 7 ans. Souvenez-vous, l'épisode du Burger King sur les Champs-Élysées. Le procès de 9 CRS débute aujourd'hui. On vous écoute dans un instant. Il est 7h11.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va se replonger ce matin dans le mouvement des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, ce fameux jour du 1er décembre 2018, troisième très grosse journée de mobilisation à l'époque et des débordements. L'Arc de Triomphe saccagé, des manifestants, certains pacifiques qui se retrouvent dans le Burger King pour tenter justement d'y trouver refuge, le Burger King des Champs-Élysées. Bonjour Ari Halimi, vous êtes l'avocat de Manon et Maxime. Ce sont deux manifestants qui ont été roués de coups, frappés à coups de matraque par des CRS dans l'enceinte du fast-food. Le tout a été filmé, on voit sur les images et on le voit d'ailleurs sur RMC Story pour ceux qui nous regardent, Canal 23. Votre parti pris ce matin, c'est que les violences policières, elles ne sont pas assez sanctionnées. Ce procès, pour vous, doit être exemplaire. Procès donc de 9 CRS de la compagnie 43 qui seront jugés à partir d'aujourd'hui.
Effectivement, il suffit de voir le délai écoulé depuis le moment des faits. 7 ans, un peu plus de 7 ans même. C'est astronomique pour la justice. C'est également extrêmement long pour les victimes. Il faut bien se mettre dans la tête de deux personnes qui viennent juste manifester parce que le carburant augmente trop, qui viennent pour la première fois sur Paris, qui se retrouvent dans un nuage de gaz, qui n'arrivent plus à respirer, qui essaient de se réfugier dans un endroit et qui finissent matraqués par des policiers. Et c'était la première fois qu'ils avaient une confrontation avec des policiers. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Ils travaillaient, ils avaient une vie, ils avaient un enfant. Donc c'est quelque chose que la justice devrait prendre en considération et qu'elle ne prend pas suffisamment en considération.
Que répond la hiérarchie de la police ?
La hiérarchie de la police répond toujours contexte, contexte, contexte. Et c'est vraiment le slogan habituel. C'est vrai que cette journée a été probablement l'une des journées les plus violentes entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre. Mais la question, c'est pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle confrontation entre la population française, une partie de la population française, et des policiers. C'est ça qui vraiment aujourd'hui intrigue encore et que le procès va peut-être essayer de déterminer.
Cette journée-là, c'est effectivement une journée de bascule. C'est la fameuse journée où on a tous en tête l'image du saccage d'une partie de l'Arc de Triomphe. Au fond, est-ce que vos deux clients sont un peu les boucs émissaires de cette violence-là ? C'est-à-dire que se retrouvant, eux, à portée de main des CRS, est-ce que votre théorie, c'est qu'ils se sont en quelque sorte vengés sur eux de la violence qui avait eu lieu un peu plus haut sur les Champs-Élysées ?
Ah bah, il est indéniable que ce jour-là, il y a eu une manifestation de vindicte et une explosion de colère. Après, ils avaient commencé à 5 heures du matin, hein, les policiers. C'est évident. Maintenant, la question, c'est pas de savoir qui.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'ils ont commencé à 5 heures du matin? C'est qu'ils sont au bout, ils sont épuisés eux.
Mais ils ont même pas été remplacés. Ils avaient même pas mangé ce jour-là. C'est ce qu'on voit dans le dossier. C'est qu'il y avait une seule compagnie et ils le disent eux-mêmes et leurs commandants le disent. Ils le disent tous dans le dossier. Et c'est quelque chose qui va manquer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. C'est que ceux qui ont donné les ordres, la DOPC, la préfecture de police, ne sont pas sur le banc des prévenus. Et pourtant, la désorganisation du maintien de l'ordre, elle vient également de leur part.
Pour vous, au fond, il y a certes les 9 prévenus, 9 CRS, qui sont sans doute ceux qui ont porté les coups. Quand je dis sans doute, c'est que la hiérarchie elle-même, elle dit on n'est pas complètement sûr de pouvoir reconnaître nos agents.
Ah ben, ils ont même évité de les reconnaître pendant pratiquement un an ou deux.
Ils n'ont pas voulu les reconnaître, c'est ce que vous dites.
Ils n'ont pas voulu les reconnaître et eux, y compris, hein, quand on leur montre les images, ils se reconnaissent eux parce qu'ils ont accepté finalement de se sacrifier par rapport à leur hiérarchie, mais ils refusent de reconnaître les autres, leurs collègues qu'ils connaissent parfaitement au sein du Burger King.
Quand vous dites qu'ils ont accepté de se sacrifier pour la hiérarchie, c'est très fort ce que vous dites. C'est-à-dire que pour vous, en réalité, c'est l'institution CRS, en quelque sorte, qui est responsable de ce qui s'est passé, y compris jusque dans ce Burger King, par un manque d'organisation, par un manque d'anticipation. Plus que ceux qui ont porté les coups à proprement parler.
Oh, moi, je remonte beaucoup plus loin. Moi, j'essaie de réfléchir à la chaîne de responsabilité dans ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes et ce jour-là en particulier. Je ne vois pas d'autre possibilité que d'envisager une responsabilité politique, c'est-à-dire celle du gouvernement, celle du président de la République. Je sais que ça peut remonter très loin, mais il n'y aurait pas eu autant de personnes dans la rue avec une colère évidente s'il y avait eu une prise de considération de simples personnes qui avaient peur, qui avaient une désespérance économique. Et cette colère, elle s'est exprimée dans la rue, certes, et on a envoyé pas suffisamment de policiers pour les encadrer, pas suffisamment de stratégies de maintien de l'ordre pour essayer d'éviter ces débordements. Et oui, ça a entraîné une violence dont tout le monde a été victime ce jour-là.
Et ce qui est sûr, c'est que je poserai la question tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera mon invité à 8h30. Mais tout de même, quand je vous écoute, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas aussi accepter l'idée qu'il y a une forme de responsabilité de ceux qui commettent les violences? Il ne s'agit pas de vos clients, en l'occurrence, mais vous avez l'air de dire que cette journée, voilà, il y avait une colère. Malgré tout, à un moment, quand on s'en prend, par exemple, physiquement à l'Arc de Triomphe, on a aussi une responsabilité.
Alors, il faut vraiment distinguer les biens des personnes, hein. Mais de toutes les manières, ces personnes qui ont commis des dégradations, elles ont été jugées, pas forcément toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes été identifiées, mais elles ont été jugées et massivement pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ah non, la colère n'excuse rien. En revanche, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de débordements? Pourquoi est-ce qu'on a eu une période insurrectionnelle qui a failli faire tomber la République indéniablement ce jour-là? On a vu tous ces gilets jaunes qui sont arrivés pratiquement proche de l'Élysée alors qu'ils se sont retenus, mais où il y a eu un risque pour la République ce jour-là.
Et d'autres, effectivement, où la République a vacillé, clairement, pour vous ce jour-là.
Objectivement, oui, bien sûr que ce jour-là, ça a été un moment fatidique.
Merci beaucoup, Maître Arié Halimi, d'avoir pris le temps de venir ce matin, au matin donc de l'ouverture de ce procès. Vous êtes l'avocat de Manon et Maxime, partie civile dans le procès des 9 CRS qui s'ouvre aujourd'hui et qui aura lieu jusqu'à jeudi. Merci à vous. Il est 7h20, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, hier, des militaires français ont débarqué sur l'île de Ré pour un exercice grandeur réelle. Est-ce que ça sert à quelque chose, ces exercices militaires?
Alors, ça sert à se préparer, mais la vérité, c'est qu'on ne peut jamais rien prévoir. Les guerres ne ressemblent jamais à ce qu'on avait imaginé.
Vous nous le direz dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, l'armée française hier a lancé un exercice militaire de grande ampleur. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Une opération qui va durer jusqu'au mois de mars, qui va mobiliser plus de 12 000 soldats, 25 navires de combat, dont le fameux porte-avions Charles de Gaulle. Il y aura aussi 140 avions et hélicoptères et 1200 drones.
Oui, et le nom de cette opération, c'est Orion 26. C'est le plus grand exercice militaire depuis la guerre froide sur notre territoire. Des pays alliés y participent, alors les Européens bien sûr, mais aussi des Américains. La France veut montrer qu'elle est prête à faire la guerre. C'est aussi un signal envoyé à Moscou. Nous n'avons pas peur.
Est-ce que les exercices militaires nous préparent vraiment à la guerre?
Oui, l'entraînement, c'est décisif. Une fois qu'on a dit ça, les guerres ressemblent rarement à ce qu'on avait imaginé. Elles nous prennent toujours par surprise. Prenez par exemple la Première Guerre mondiale en 1914. Cette guerre, la France s'y préparait depuis 40 ans. On ne parlait que de ça et on était convaincus de trois choses. Un, cette guerre serait courte. Deux, elle serait peu meurtrière. Trois, les soldats devraient tout le temps être en mouvement.
C'était la fameuse fleur au fusil. Eh ben, ça n'a pas du tout été comme ça.
Eh ben non, c'est l'exact contraire qui s'est passé. La guerre a duré 4 ans, donc pas du tout courte. Elle a fait plus d'un million de morts côté français, donc très meurtrière. Et les soldats ont passé leur temps dans des tranchées, donc ils n'étaient pas tout le temps en mouvement. Et d'ailleurs, ces tranchées, absolument personne ne les avait prévues dans les plans.
Est-ce qu'on en a tiré les enseignements ?
Eh bien, surtout qu'il fallait se protéger contre l'Allemagne, forcément. Donc, on construit une gigantesque muraille à l'est, sur la frontière. Ça s'appelait la ligne Maginot. 750 km de béton, de barbelés, de souterrains, de canons. Tout ça à la pointe de la technologie. Ça a coûté à peu près 3 milliards d'euros d'aujourd'hui. Mais au moins, on était barricadés. Plus rien à craindre.
Et pourtant, là encore, ça n'a servi à rien.
Et oui, ou presque. En 1940, quand l'armée allemande attaque la France, elle s'est contentée de contourner en partie la ligne Maginot, en passant par la Belgique et les Ardennes. C'était assez logique. Résultat, une pagaille totale et la déroute d'une armée française complètement dépassée.
Quel est le plus grand exercice militaire de tous les temps ?
Eh bien, c'est celui qui a préparé le débarquement allié en Normandie. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps. Pendant 2 ans, des millions de soldats vont s'entraîner nuit et jour en Angleterre. Et attention, on s'entraînait à balles réelles. Une statistique peu connue, Apolline, il y a eu plus de morts à l'entraînement du débarquement que pendant le jour du débarquement, absolument. Et le jour J, d'ailleurs, beaucoup de choses n'ont pas fonctionné. Par exemple, on avait prévu des chars amphibies, donc des chars qui étaient capables d'aller sur l'eau. Eh bien, la plupart ont coulé à pic quand on les a mis à la mer. De même, on a bombardé les défenses allemandes pendant des heures. Quasiment aucune n'ont été touchées. Mais le débarquement a quand même réussi. Les exercices militaires, ça sert à préparer les individus, à les mettre en condition psychologique, physique, tout ça pour le combat. Mais la guerre reste un exercice imprévisible.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Eh oui, notre collègue. Parce que, non mais ils travaillent pour la même chaîne que nous, on va pas se mentir, ils travaillent pour RMC Story parce qu'ils produisent la moitié de leur programme 100 jours avec les policiers de la Côte d'Azur et puis Flick Story spécial police de la route et puis 100 jours avec la brigade de Saint-Amand-les-Eaux, mon policier chez les nudistes, on a retrouvé la 7e compagnie de CRS, etc. etc. Donc bienvenue collègue. Laurent Nunez qui défendra le projet de loi sur la sécurité du quotidien, j'allais dire la sécurité de quotidien, non c'est pas ça du tout, on n'a pas besoin de faire une loi pour protéger Yann Barthes. Non mais il a besoin de personne pour se protéger. 1m80, 100 kilos. Vous savez qu'il organise des combats de free fight clandestins dans les bars à kombucha du 11e, Yann. Donc là, non. Sécurité du quotidien, c'est-à-dire les rave parties sauvages, les rodéos urbains, les refus d'obtempérer. Il y a 77 refus d'obtempérer par jour, 78 en comptant Rachida Dati. Vous avez vu que Sébastien Lecornu a demandé à Rachida Dati de quitter le ministère de la Culture. Elle lui a répondu « Je suis pas ta boniche !» Donc Laurent Nunez doit maintenant expulser une forcenée du ministère.
« Sors d'ici, Rachida, t'es cernée !»«
Jamais !»«
Rachida, on te donne la présidence de l'Institut du monde arabe. Ça te dit pas de valoriser la culture islamique ?»
« J'en ai rien à foutre de diriger Radio Nova !» Oula, Rachida, on se calme. Elle veut pas partir parce que elle veut pas donner le signal de...
C'est un humour de niche.
Oui, c'est très niche. C'est très niche. C'est un humour d'Ati. Elle veut pas partir parce qu'elle veut pas donner le signal de je quitte le gouvernement. Non, elle veut donner ce signal-là plutôt que le signal de je me fais virer par Lecornu.
Oui.
Non, parce que c'est vrai que ça craint. Enfin, je veux dire, c'est un peu la honte de se faire plaquer par Lecornu, quoi. Vous avez vu la dégaine avec le pull mou, le cabas avec des poireaux. T'as envie de contrôler, quand même. Laurent Nunez était ce week-end à Charleville-Mézières pour y annoncer la création d'une brigade de lutte contre les stupéfiants. C'est Bernard de la Villardière qui va être content. D'habitude, ses reportages, il va en Thaïlande, au Colombie, au Mexique. Là. Bonjour. Je suis Bernard de la Bernardière et je vous propose une plongée en enfer. Violence, drogue, magasin fermé à 18h et ennui profond. Bienvenue à Charleville-Mézières, une région sinistrée où même les tueurs en série se droguent pour tenir. Et puis vous reviendrez avec le ministre de l'Intérieur sur le terrible fait divers qui a eu lieu hier soir dans le 16e arrondissement, qui m'a été rapporté par un Mathieu Béliard hilar. 11 Marseillais battus et humiliés par un groupe de millionnaires parisiens au Parc des Princes. Mathieu qui me disait, il en restait plus rien, c'était jouissif. Eh ben, notre actionnaire marseillais appréciera. On verra ce qui va vous arriver. Rendez-vous avec Laurent Nunez à 8h30.
Arnaud Demanche, rendez-vous avec vous à 8h20. Il est 7h27.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, est-ce que vous savez, vous, combien gagnent vos collègues? Eh bien, à partir de juin prochain, les entreprises seront obligées de révéler les salaires. Comment ça va fonctionner? Quelles conséquences? Est-ce que ce sera un moyen pour mieux négocier avec votre employeur? Ou est-ce qu'au contraire, vous redoutez le règne de la transparence? Et peut-être que ça tire tout le monde vers le bas, comme nous le disait un auditeur tout à l'heure. Je vous attends au 32-16, justement, pour réagir et pour en débattre. À 7h50, notre voix de droite, comme tous les lundis, une candidate à la mairie de Paris qui ne connaît pas le prix des tickets de métro, enfin désormais du pass Navigo. Charles Consigny, très en colère contre les politiques qui sont déconnectées du quotidien et de la réalité. Il nous le dira donc à 7h50. Il est 7h27. A tout de suite pour la météo du journal. Il est 7h29 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous pensiez votre voiture ultra moderne davantage protégée face au vol? Eh bien c'est raté dans 9 cas sur 10. C'est son système électronique qui est utilisé pour un vol garanti sans effraction. Les nouvelles techniques des malfaiteurs et leur parade dès le début de ce journal. La prof de français accusée d'avoir harcelé la jeune Eva L. De retour devant la justice pour son procès en appel, plus de 6 ans après le suicide de la collégienne de 11 ans. Et puis la France va briller à partir de ce soir en patinage artistique avec le tout nouveau duo Cizeron et Fournier-Baudry.
Il est 7h30. Dans maximum 4 minutes, un véhicule sera volé en France.
Un vol toutes les 4 minutes, soit 125 000 véhicules en 2024. Cela fait de nous les champions d'Europe en la matière. Conclusion d'une étude Coyote qu'RMC vous dévoile ce matin. Et on peut dire que les voleurs ne manquent pas d'ingéniosité. D'ailleurs, peut-on encore parler de voleurs ou bien de pirates informatiques? Car c'est le point faible de nos véhicules modernes, leur système électronique. Dans 9 cas sur 10, c'est ce qui permet le vol. Rachel Sadodine.
Fini le pied de biche. Les voleurs 2.0 pratiquent le mouse jacking. Concrètement, ils captent les ondes émises par les clés du véhicule grâce à des outils électroniques très accessibles selon Pierre-Olivier Marie du site spécialisé dans l'automobile caradisiaque.com.
Vous allez les trouver sur Internet en cherchant environ 2 minutes 30. Il n'y a même pas besoin d'aller sur le dark web. Ce sont des appareils qui, en plus, valent assez peu cher, quelques centaines d'euros.
Pour se prémunir de ce genre de vol, deux solutions. Ranger systématiquement ses clés dans un boîtier anti-piratage ou alors...
Finalement, le bon vieux bloc volant. Vous savez, le truc de papa, là, c'est assez rustique, c'est assez simple, mais ça fait perdre du temps aux voleurs, et les voleurs, ils ont horreur de perdre du temps, ils aiment bien que ça aille vite.
L'antivol pour pédale est lui aussi très efficace contre une autre technique électronique, les vols à l'OBD, autrement dit, le fait de passer par la prise en principe réservée au contrôle technique pour ouvrir et démarrer le véhicule.
7h31, c'est une affaire qui a beaucoup marqué les Français. Elle est de retour devant la justice aujourd'hui. Le suicide en 2019 de la jeune Eva L, 11 ans à l'époque, est victime de harcèlement dans son collège d'Herblay-sur-Seine en région parisienne. Harcèlement auquel sa professeure de français aurait participé. C'est elle qui revient à la barre pour son procès en appel après avoir été relaxée en première instance. Un procès très attendu des parents de la jeune fille que vous avez rencontrée pour RMC, Julie Brault.
Sébastien et Marie Dupuis n'en démordent pas. Leur fille Evaëlle a été régulièrement pointée du doigt, mise à l'écart, installée au fond de la classe et moquée par sa professeure de français. Un acharnement devenu invivable pour leur petite fille de 11 ans.
Ce qu'on dit et ce qu'on veut que ce soit reconnu, c'est qu'elle a participé à ce mal-être, qu'elle l'a initié, qu'elle l'a légitimé avec une position de professeur. D'adulte, ça c'est inexcusable.
En première instance, le tribunal a pourtant estimé manquer de preuves pour condamner l'enseignante de 63 ans, le harcèlement n'étant, je cite, pas suffisamment circonstancié. Des arguments révélateurs du manque de courage de la justice, estime la mère de la fillette.
Cette professeure est poursuivie pour deux autres élèves. Ben pour eux, c'est important, ils sont vivants. Dire non, ce n'est pas toi à 11 ans qui devais mettre fin à cette situation. C'est nous adultes, on aurait dû le faire. Malheureusement, ça fera pas revenir notre fille, mais c'est ça la bataille en fait qu'elle a lancée.
Poursuivi pour harcèlement moral sur Evaëlle et sur deux autres élèves lors de ce nouveau procès, la professeure de français continue à clamer son innocence.
Il est 7h33 sur RMC, une semaine jour pour jour après l'adoption du budget de l'État. Sébastien Lecornu se projette sur la suite. Le Premier ministre réunit cet après-midi tous ceux qui soutiennent son gouvernement et il va dérouler sa feuille de route, Thomas Becker.
Oui, avec notamment deux projets de loi dans les prochaines semaines, un contre la fraude, l'autre d'urgence sur l'agriculture, sans compter ceux qui sont préparés depuis des mois par les ministres respectifs sur la justice, le logement ou la sécurité. À Matignon, tout à l'heure, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, répétera son souhait d'une adoption rapide de la loi sur la fin de vie qui revient dans l'hémicycle la semaine prochaine. Laurent Wauquiez, qui sera aussi autour de la table, demandera que le gouvernement reprenne la proposition de loi LR sur la légitime défense des policiers. Sébastien Lecornu devra trancher, car le calendrier est serré. L'Assemblée nationale fermera ses portes 3 semaines au mois de mars à cause des élections municipales. Et puis surtout, il y aura beaucoup de débats sur chaque texte, parce que si Sébastien Lecornu n'a pas été censuré, il n'a en revanche toujours pas de majorité.
Figure acrobatique en vue pour le Premier ministre, qui pourrait s'inspirer de notre duo de danse sur glace. Guillaume Cizeron remet en jeu son titre olympique à partir de ce soir aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec sa nouvelle coéquipière Laurence Fournier-Baudry, le couple qui n'a qu'une année de pratique à son compteur, Arnaud Valadon, mais ça promet.
C'est du jamais vu dans le monde du patinage, une alchimie tout de suite trouvée grâce à une solide relation, explique la franco-canadienne Laurence Fournier-Baudry.
Notre amitié, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on apprécie les moments sur la glace et hors la glace. On est capable d'avoir du fun ensemble.
La préparation sportive est réussie, champion d'Europe il y a un mois. En coulisses, plusieurs affaires. La sortie du livre de Papadakis, mettant en cause Cizeron pour son comportement. Ce dernier a mis en demeure son ancienne partenaire. Fournier-Baudry vit, elle, avec les accusations d'agression sexuelle visant son conjoint et ex-partenaire sur la glace, Nikolai Sorensen, le tout avec un juge américain influent qui a fait changer la musique du programme court. Exit Depeche Mode, place à Vogue de Madonna. Guillaume Cizeron ne souhaite se concentrer que sur le sportif.
C'est vrai qu'on est un petit peu dans notre bulle. C'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur, nous comme nos concurrents, et c'est un petit peu ça qui fait l'excitation du moment.
Ce soir, lors du programme court, les Français devront faire au moins jeu égal avec le duo américain avant le verdict final mercredi.
Le patinage artistique, grosse chance de médaille pour la France, tout comme le combiné par équipe en ski alpin avec une première épreuve dès ce matin, 10h30 après les 2 médailles récoltées hier. L'argent pour Mathias Desloges en skiathlon et l'or en biathlon avec le relais mixte. Pour ne rien rater, vous le savez, c'est sur RMC que ça se passe, radio officielle des Jeux Olympiques. Et puis un mot de football tout de même avec cette nouvelle humiliation subie par les joueurs de l'OM hier soir, battu 5-0 par le PSG au Parc des Princes, une première dans toute l'histoire du classique. Paris reprend ce matin sa place de leader de la Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Lens, Lyon à la 3e place et Marseille 4e. Le quintet aujourd'hui, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 7, Automaille. L'outsider, c'est le 14, Talisman Touch.
Merci beaucoup, Élise Dangean. 7h36 sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et ce matin, on vous parle de ce triste titre pour la France. Nous sommes champions d'Europe des vols de voitures. 125 000 vols de voitures l'an dernier, des voitures qui sont volées grâce à la technologie. On vient en fait hacker votre clé, le numérique. La protection mécanique est plus efficace contre les vols de voitures, nous dit Eric ce matin. À l'ancienne, rien de mieux que les blocs volants, les blocs pédales. Voilà ce que pensait Eric, il l'a dit sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Bertrand nous raconte qu'en rendez-vous dans un hypermarché à 14h, il a fermer son véhicule, partir à un rendez-vous, 15 heures de retour, plus de voiture, plus un seul dossier, sacoche, valise. La police m'a expliqué que les voleurs restent à moins de 15 mètres, enregistrent les codes électroniques de ma clé. Et quand j'étais en magasin, ils ont tout vidé sans casser ni vitre ni serrure. Voilà ce que dit Bertrand. Ralph, un peu d'humour, il nous dit un peu d'autodérision pour se passer des infos tristes à la rigolade. Une voiture volée toutes les 4 minutes, nous à la maison, vu qu'on a 2 voitures électriques, si on les vole, ils iront pas bien loin. Voilà ce que nous dit Ralph ce matin, qui n'a pas une grande confiance dans l'autonomie de son véhicule. Vraisemblablement, vous réagissez ce matin au 32-16 aussi.
Merci Mathieu, il est 7h37. Autre sujet qui vous fait réagir, c'est cette exclusivité que vous dévoile RMC ce matin. 20% des entreprises vont publier dès cette année les grilles de salaire, conséquence d'une décision européenne qui va imposer davantage de transparence dans les salaires des différentes personnes à quelque niveau que ce soit d'une entreprise. Bonjour Bertrand Martineau.
Bonjour.
Vous êtes économiste, cette décision, elle va forcément avoir un impact. D'abord, comment ça va marcher? Et puis, est-ce que ça va créer des tensions? En tout cas, c'est votre point de vue et vous alertez ce matin. Et j'attends vos témoignages au 32-16. Vous réagissez depuis ce matin, cet auditeur notamment, commercial, qui nous disait « J'ai peur que ça nivelle tout vers le bas et que ça empêche d'avoir une rémunération au mérite. » Vous êtes chef d'entreprise ou au contraire salarié? Appelez-nous pour réagir au 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 7h40 et vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story. Vous allez bientôt pouvoir savoir combien gagne votre collègue de bureau. Conséquence d'une décision européenne. Bonjour Bertrand Martineau, vous êtes économiste, expert associé à l'Institut Montaigne. Votre livre, Le travail est la solution, réconcilier les Français avec le travail. Franchement, j'ai envie de vous dire, il y a du boulot. Il a été publié aux éditions Hermann. Précisément, je voulais vous interroger sur cette décision, donc l'Union européenne qui va demander à ce que les entreprises aient une transparence sur le salaire. Et à partir de juin prochain, on saura donc quels sont les salaires moyens des collègues à poste équivalent. Et ça va se passer comment ? Est-ce que certaines entreprises décident d'anticiper ?
Oui, alors plusieurs précisions. Déjà, c'est à partir de 2027 en fait, hein, voilà, pour les entreprises de plus de 150 salariés. Puis pour les plus de 100 à partir de 2031. Voilà. En fait, je précise qu'il ne s'agit pas de dévoiler les rémunérations par personne, ça reste anonyme. Donc c'est par groupe de salariés, par catégorie de salariés, on va dire. Et tout l'enjeu, c'est de déterminer dans chaque entreprise ou dans des branches professionnelles les catégories de salariés. Et l'entreprise devra effectivement dévoiler des moyennes ou des fourchettes. Voilà. Et donc, vous ne saurez pas forcément ce que gagne exactement votre voisin de bureau. En revanche, vous aurez une idée normalement assez précise de combien gagnent tous les gens qui sont dans votre situation dans la même entreprise.
Et donc, forcément, vous verrez si vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne globale de votre entreprise. Oui. Est-ce que c'est une émulation ou est-ce qu'au contraire, vous redoutez que ça tire tout le monde vers le bas ?
Alors, une émulation, je ne pense pas. Alors, il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça, c'est que il y a une demande d'équité, de transparence des salaires dans un contexte où notamment on conserve des inégalités salariales parfois injustifiées ou du moins pas expliquées. Donc là, les entreprises seront obligées de motiver des écarts importants.
Mais motivés auprès de qui ?
Motivés auprès des salariés qui en feront la demande. C'est-à-dire, d'accord, vous allez voir votre patron.
Donc vous pourrez aller voir le patron, dire voilà, comment c'est possible que je sois en dessous de la moyenne.
Exactement, voilà. Et là, le patron devra vous dire, bah, c'est parce que voilà, vous avez été moins performant, vous n'avez pas réalisé votre objectif, parce que vous êtes moins ancien que les autres collègues en moyenne, etc. Il faudra trouver des explications objectives. Donc, il y a une demande de transparence. Il y a un ensemble particulier qui est l'égalité homme-femme aussi au niveau des salaires, puisqu'il y a une attention particulière sur la réduction des écarts. Emploi égal, salaire égal, normalement. Ça, c'est la règle dans le Code du travail. En pratique, il y a, d'après l'INSEE, il y a encore pratiquement 4% d'écart entre les hommes et les femmes à emploi donné. Je précise, emploi donné,
oui,
et à temps de travail.
Quand on regarde
donné
vraiment avec, oui, le même temps de travail et sur un même poste,
oui,
il y a encore 4%,
oui,
de différence.
Alors, c'est pas facile à estimer, parce qu'il faut estimer ce qui est exactement le même poste, mais l'INSEE estime qu'on est un peu en dessous de 4%.
La question, elle fait beaucoup réagir. Oui. D'abord, sur les messages, Mathieu.
Oui, et ce message qui n'est pas signé, mais qui nous dit, perso, quand j'ai appris le salaire d'un de mes collègues, ça m'a permis de quasi doubler le mien.
Effectivement, ça peut être un bon outil de négociation, non ?
Alors, c'est un outil de négociation individuelle, ça c'est évident. Avec le bon côté des choses, c'est cette dimension transparence où personne peut être vraiment contre. Si ça reste anonyme, bien entendu, ça c'est un point important.
Alors, sur une entreprise de plus de 150 salariés, on se dit que l'anonymat peut être préservé.
Oui.
Quand ça viendra à des entreprises plus petites, c'est quasiment impossible.
Alors, la directive européenne précise que c'est obligatoire à partir de 100 salariés. En dessous, c'est des décisions nationales. C'est-à-dire que l'État peut décider, par la loi, peut décider de descendre en dessous de 100.
À court terme, lorsque vous allez apprendre effectivement qu'il y a certaines personnes qui, à poste équivalent, gagnent plus, ça peut être un levier, en effet, comme le dit cet auditeur, pour pouvoir négocier son salaire. À l'inverse, est-ce que à moyen terme, ça ne va pas décourager les patrons qui voudraient mieux rémunérer certains en se disant, bon, bah, je vais être obligé derrière de rémunérer tout le monde ?
Alors, juridiquement, non, c'est toujours possible de diversifier, notamment avec ce qu'on appelle des rémunérations accessoires, c'est-à-dire de l'intéressement, des primes de performance, tout ce que vous voulez. Donc, ça reste tout à fait possible. Simplement, il faudra le justifier. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait payer une personne A supérieure à une personne B, mais simplement, il faudra le justifier.
Il faudra pouvoir le justifier si on vous le demande. Cyril, voilà, vous pourriez être de ceux qui le demanderont. Bonjour Cyril. Vous êtes ouvrier à Bordeaux, et justement, vous vouliez réagir parce que vous avez entendu aussi cet auditeur tout à l'heure. Lui, il était commercial. Il était archi contre, parce qu'il considérait que ça allait niveler tout le monde vers le bas et que ça allait empêcher une rémunération au mérite.
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde. Oui, moi je suis plutôt pour cette
transparence.
Ouais, voilà. Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis dans mon usine, et je sais que les nouveaux embauchés, touche plus que ce que je touche. En fait, pendant 15 ans, on a eu énormément de mal à faire monter les salaires. Et maintenant, on sait que déjà que les nouveaux, enfin, ceux qui sont embauchés depuis 2, 3, 4 ans, touchent mieux que les anciens.
Ils entrent dans l'entreprise avec un salaire plus élevé que celui que le vôtre, alors que vous avez l'expérience?
Ben oui, puisque la justification, c'est que le marché du travail a augmenté, mais c'est vrai que les salaires n'ont pas suivi. Les salaires n'ont pas suivi dans l'usine, et c'est quelque chose de profondément injuste. Après, il y a les entretiens individuels où on remplit des objectifs. Moi, je suis à 40 heures par semaine, donc les heures sup, je les fais, contrairement à ce que disait l'auditeur
tout à l'heure.
Donc, il y a des gens qui font les efforts et qui ne sont pas forcément récompensés. Et le patron, en fait, se cache souvent derrière « c'est pas possible de payer plus ». Mais quand on parle entre nous, la transparence, on l'a pas exactement, parce qu'on sait pas exactement combien touche le collègue. Mais par contre, on sait qu'il y a des différences de salaire.
Et ça vous donnera un argument, ça vous donnera un argument supplémentaire pour aller voir votre patron. Vous bossez dans quel secteur, Cyril?
Je suis vraiment dans une usine de métallurgie.
D'accord, dans une usine de métallurgie et depuis très longtemps. Vous connaissez le patron. Ce que je veux dire, c'est que c'est une usine où il y a quand même une taille humaine. Vous connaissez le patron. Vous pouvez parler avec vos collègues, parler avec lui.
Le DRH, parce que nous, c'est une boîte de plusieurs centaines de personnes. Donc,
mais en tout cas, le DRH.
On peut avoir rendez-vous avec le DRH.
Cyril, restez avec nous, parce que justement, il y a un patron qui nous appelle, Michael, qui est chef d'entreprise dans le Nord, à Don. Bonjour, Michael.
Bonjour, Apolline.
Michael, vous vouliez réagir, vous aussi. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure. Vous avez combien de salariés, vous, Michael?
J'en ai 11.
Vous en avez 11. Alors, vous ne serez pas, à proprement parler, obligé de faire cette transparence. On l'a bien dit, c'est pour les plus de 150 salariés pour l'instant. Mais le principe même de cette transparence, vous trouvez que c'est une bonne chose ou au contraire, ça vous inquiète?
Ben, ça m'inquiète un peu, parce qu'en France, on sait que les salaires ont toujours été tabous. On a également un gros problème de jalousie, et le souci qu'il risque d'avoir, c'est que on va avoir des salariés qui vont se dire bon bah lui il gagne plus que moi, enfin les autres gagnent plus que moi, donc je ne fais plus rien, j'arrête là, et seront beaucoup moins motivés.
Et en même temps, quand vous entendez Cyril à l'instant, Cyril, je crois que vous êtes toujours avec nous d'ailleurs, quand vous entendez Cyril à l'instant qui dit « bah moi, quand j'ai été embauché, depuis, je stagne », alors que ceux qui sont aujourd'hui embauchés pour le même job que le mien, moi qui ai de l'expérience, qui ai de l'ancienneté, je suis moins payé qu'eux, vous comprenez que ce soit très décourageant.
Bien sûr, mais effectivement, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a les salariés, il y a les ouvriers par exemple qui vont faire exactement le même travail, et là effectivement, il faut peut-être équilibrer les salaires sur des professions de cadre où on est plus sur du challenge. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, c'est vrai que je n'ai que des cadres.
Ouais, donc ça c'est ce qui va être difficile effectivement, ça va être cette obligation. Ce que vous dites aussi sur la question du tabou, de la jalousie, c'est vrai qu'en France, les salaires c'est assez tabou, c'est étonnant. Moi quand j'avais vécu aux États-Unis, c'est quasiment la première question qu'on vous demande, c'est combien vous gagnez. C'est tout à fait une question impossible ici. Est-ce que ça pourrait faire changer les mentalités?
Alors, il faut la question clé, ce sera la définition des catégories d'emplois équivalents. Alors, on saura mieux comment c'est fait à partir de la loi, puisqu'il faut une transposition en fait de cette directive. Elle ne s'applique pas directement. Donc, pour répondre à certaines questions, il faudra attendre la loi au plus tard au mois.
Mais au-delà de la question de la loi, effectivement, on a presque l'impression qu'en France, vous osez dire votre salaire quand vous êtes mal payé pour vous en plaindre. Mais si vous êtes bien payé, vous êtes hyper gêné et vous ne le dites pas.
Oui. Donc, il faudra, le point clé, ce sera de bien définir ces catégories de manière à ce que les gens puissent avoir des points de comparaison qui sont véritables, enfin qui sont vraiment valables en fait.
Avec une question qui est que la publication de ces salaires moyens, elle va aussi être rétroactive. Alors, est-ce que ça n'aura pas un impact aussi sur une sorte de rancœur plus large qui peut même conduire à aller saisir les prud'hommes en disant mais attends, comment c'est possible que j'ai été si mal payé par rapport à la moyenne de ma boîte?
Vous avez tout à fait raison, c'est le grand inconnu de cette affaire, et donc il faudra attendre les détails dans la loi qui ne seront pas des détails justement. C'est quelles sont les sanctions dans ce cas-là et comment va intervenir le juge, c'est-à-dire en gros les prud'hommes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passera quand des salariés qui se sentent floués iront devant les prud'hommes?
Donc, sachant que les prud'hommes sont, je crois, déjà embouteillés comme le reste de la
ville. Très embouteillés, puis encore plus les cours d'appel. Enfin, bon, c'est vraiment très compliqué, effectivement. Donc, est-ce que c'est un essor pour le dialogue social dans l'entreprise qui va définir les catégories, qui va enfin regarder de très très près les politiques de rémunération? Ça, c'est le versant positif. Le versant négatif, c'est qu'il y a un risque, effectivement, de contentieux.
Qu'est-ce qui peut, Bertrand Martineau, réconcilier les Français avec le travail?
Alors, eh bien, un sentiment de justice, c'est-à-dire que le travail paye premièrement, et que le salarié soit mieux considéré pour ce qu'il fait et justement rétribué. C'est en fait aussi simple que ça et aussi difficile en même temps.
Et c'est ce qui me frappe aussi dans le témoignage de Cyril. Effectivement, personne ne peut accepter qu'une situation pareille, c'est-à-dire quand vous faites le même geste, que vous travaillez dans la même usine, que vous avez l'ancienneté qui normalement devrait valoriser votre salaire, que vous soyez payé moins que ceux qui arrivent sur le marché.
Mais j'insiste sur le fait que ça peut attiser de la jalousie peut-être, mais en revanche, ça peut aussi, dans d'autres sens, rassurer, c'est-à-dire que détruire en fait des fantasmes. Il y a des gens qui pensent que leurs voisins de bureau sont payés deux fois plus et s'apercevront que c'est pas vrai.
Merci beaucoup. Merci à vous, Bertrand Martin. Merci d'avoir répondu à mes questions. Économiste associé à l'Institut Montaigne, votre livre Le travail est la solution. Réconcilier les Français avec le travail. Et puis merci aussi à Cyril et à Michael pour leur témoignage. Il est 7h50 sur RMC. Notre voix de droite du lundi est dans ce studio. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour Apolline.
Charles, vous êtes avocat, vous êtes grande gueule sur RMC. Écoutez ça, c'était hier soir chez nos confrères de BFM TV.
Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris.
Annuel 52.
Non.
50 euros mensuels, enfin annuels, dit-elle, au lieu de 90 euros mensuels. On est totalement hors des clous. La gaffe donc de la candidate à la mairie de Paris, Sarah Knafo, gaffe ou surtout inconstance. Pour vous, Charles, c'est le symbole d'une déconnexion de nos élus?
Oui, c'est-à-dire que Sarah Knafo est la nouvelle icône des boomers de droite qui s'encanaille avec son sourire et son discours radical. Moi, je pense que malheureusement, elle révèle par cette maladresse le fait qu'elle fait de la politique pour rouler en carrosse.
Et vous nous le direz dans un instant, il est 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Charles Consigny. Mais d'abord, le bonus, Mathieu. Cette nuit, c'était le 60e Super Bowl.
Oui, et les Seahawks de Seattle l'ont emporté face aux New England Patriots, à Pau. Bon, c'est rarement ce qui nous intéresse de ce côté de l'Atlantique.
Ça, je suis content de l'apprendre.
Le portoricain Bad Bunny a assuré le spectacle de la mi-temps, ce qui a passablement mis Donald Trump en colère. C'est en opposant sa politique migratoire. Un compatriote figurait parmi les invités, Ricky Martin, c'est lui que vous entendez. C'est un spectacle presque entièrement en espagnol, c'est ça qui a agacé Trump. Le ton était au message de paix et d'amour. Lady Gaga était de la partie elle aussi, pour reprendre un de ses tubes en version latino s'il vous plaît, avant d'esquisser quelques pas de danse avec Bad Bunny. Et puis un final très remarqué. Derrière ce Dieu bénisse l'Amérique, il fallait comprendre les Amériques. Le chanteur a nommé tous les pays du continent, du nord au sud. On a vu des drapeaux, y compris le nôtre d'ailleurs, sans doute pour les Antilles et la Guyane. Fin du spectacle ensuite et retour au sport.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h54 et c'est la voix de droite comme tous les lundis. Charles Consigny. Charles, avocat, grande gueule d'RMC. Alors vous l'avez entendu, elle a été interrogée sur BFM TV hier soir. La candidate reconquête à la mairie de Paris, Sarah Knafo, ne savait absolument pas, mais alors même pas l'ordre de grandeur de ce que coûtait un pass Navigo. Elle a affirmé que ça coûtait 52 euros par an. C'est en réalité 90 euros par mois. C'est une boulette, c'est une incohérence, c'est une incompréhension, c'est une méconnaissance. Ça passe pas en tout cas.
Je pense surtout que c'est une déconnexion de la réalité. Il faut savoir effectivement que le métro coûte cher à Paris, qu'en plus à ce prix-là, c'est un service qui est très souvent dégradé, où il y a très souvent des problèmes. Et moi, je suis assez frappé par cette génération nouvelle d'hommes et de femmes politiques qui se prétendent différents, qui font la leçon à tout le monde sur les plateaux télé, qui se veulent anti-système et qui en réalité font de la politique pour avoir une espèce de carrière de showbiz, si vous voulez.
Et ce qui est sûr, c'est que, alors, depuis, elle a plaidé le lapsus, elle a dit que elle avait mélangé le chiffre qui vous reste quand votre employeur a déjà payé la moitié, tout ça. Mais enfin bon, bref, y a rien qui va. C'est pas la seule à avoir fait ce genre de boulette, entre guillemets.
Bon, Sarah Knafo se veut anti-système, elle est énarque, court des comptes. En réalité, elle est dans les mêmes travers que les autres. Moi, ça m'a rappelé le moment de grâce de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui d'ailleurs, candidate elle aussi à la mairie de Paris, avait été incapable de donner le prix du ticket de métro et s'était finalement hasardée sur le chiffre de 4 euros. Avant de dire qu'effectivement, il y avait des moments de grâce, ça me rappelle...
Des moments de grâce dans le métro,
Agnès Pannier-Runacher qui disait que à l'usine, il y avait de la magie sur les chaînes de production. Tout ça avant de remonter dans sa voiture avec chauffeur et d'aller déjeuner aux frais de la République. Donc voilà, je pense que tout ça est assez... assez fatigant. On peut parler des vacances d'Hidalgo à Tahiti ou du dressing très chic de Jeanne d'Auxerre, la mère du 8e qui avait sidéré tout le monde avec ses frais de vêtements. Je plaide pour une espèce d'obligation morale à faire l'épreuve, à connaître l'épreuve du réel avant de s'engager en politique. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à la vie politique française.
Quand vous entendez François Ruffin qui dit « Moi, je veux être le premier président de la République » au SMIC. Est-ce que vous vous dites, tiens, ça, oui, c'est le sens du réel ou est-ce que c'est des magots ?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire, Ruffin, il est député au SMIC déjà, quand même. Et je pense.
Enfin, député au SMIC, c'est-à-dire qu'il ne se verse que le SMIC.
Il donne le reste à son parti. Bon, ou à je ne sais qui. Enfin, à voir le détail. Bon, évidemment qu'il y a là-dedans un petit peu d'affichage, de com, etc. Mais je pense que ces symboles comptent et surtout. Vous savez, on m'a appris en première année de droit, on faisait un peu de sociologie, on nous disait on pense comme on est socialement. Et alors c'est vrai, quand on est député européen, on est très bien payé. Je crois qu'on est d'ailleurs exempté d'impôts, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Il faudrait que les élus et les fonctionnaires européens payent des impôts comme tout le monde. Il n'y a pas de raison que ces gens touchent des fortunes. Un commissaire européen, c'est 35 000 euros net par mois, hein, plus le chauffeur, plus les notes de frais. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas comme tout le monde, tondus par l'État. Ils comprendraient ce que vivent la plupart des gens. Ça vaut donc aussi pour Madame Knafo. Je pense qu'elle peut pas tenir ce discours soi-disant libéral, soi-disant tronçonneuse, etc. Et en fait, avoir une vie de princesse, c'est pas possible. Il faut se mettre dans la réalité. Et moi, je pense que l'épreuve du réel, vous voyez, moi-même à ma petite échelle, je suis avocat, je ne suis pas que éditorialiste, etc. Je gère un cabinet, je paye des charges, je vais chercher des clients, je vis tout ça. Et je tiens à vivre tout ça. Et je me serais senti ridicule, en réalité, si j'étais tombé dans la politique tout petit et si je n'avais fait que ça, parce que je pense que je n'aurais rien connu du réel. Or, la politique, c'est la transformation du réel.
Merci beaucoup, Charles Consigny. La politique, c'est la transformation du réel. Encore faut-il connaître le réel. Il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo, le journal et l'économie avec Emmanuel Le Chypre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Très belle journée à tous, 8h passées de 1 minute. Vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des images qui refont la une des journaux ce matin. Celle de violence pendant le mouvement des Gilets jaunes. Souvenez-vous, il y a 8 ans de l'épisode du Burger King. 9 CRS sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris et on va en parler dans un instant. On sera aussi dans le journal en Bretagne. 2 semaines que des habitants ont les pieds dans l'eau, vous verrez dans le Morbihan. Et on va revenir sur le carton historique du PSG 5-0 qu'on a vécu hier soir sur RMC contre l'OM.
8 ans après, donc, début aujourd'hui du procès d'un des moments les plus marquants du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, ce sont 9 CRS qui seront donc jugés à partir d'aujourd'hui à Paris pour violence volontaire sur manifestants pour l'épisode donc du Burger King. On s'en souvient, Constance Bostoen du service police justice à RMC. C'était en décembre 2018 quand des Gilets jaunes s'étaient fait frapper à l'intérieur du fast-food sur les Champs-Élysées.
Oui, à l'époque, Nathan a 27 ans. Le 1er décembre 2018, il manifeste place de l'Étoile à Paris. Et pour fuir l'air saturé de gaz lacrymogène, il se réfugie dans l'enceinte du Burger King. Quelques minutes plus tard, il est projeté à terre par un CRS.
Je me souviens me faire frapper. Je me dis, mais ils vont bien s'arrêter à un moment donné. Quoi. C'est bon, je suis à terre. J'entendais des cris. Je n'ai pas voulu me relever à ce moment-là parce que déjà, j'en avais l'incapacité. Il frappait les jambes.
Nathan explique que 6 ans plus tard, il n'en veut pas aux fonctionnaires de police, mais les séquelles psychologiques sont toujours là.
Je croise une voiture de police, je me mets à trembler, quoi. C'est incroyable. Les manifestations, j'en ai refait depuis. Je m'interdis de me retrouver dans une ruelle fermée.
De leur côté, les policiers ont insisté tout au long de l'enquête sur le caractère particulièrement violent de la journée de manifestation qu'ils venaient de vivre. Plusieurs d'entre eux émettent tout de même des regrets, évoquant même un défaut de lucidité à tous les échelons. Ils risquent pour certains jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Six suspects, dont un mineur, sont en garde à vue depuis hier à Lyon dans l'enquête sur la séquestration d'une magistrate et de sa mère, c'était ce week-end, dans une nouvelle affaire certainement liée aux crypto-monnaies. Ces deux femmes ont été enlevées pendant une trentaine d'heures et retenues dans un box au nord de Valence. Ça, ce sera un des rendez-vous importants de ce début de semaine. Cet après-midi, à Bercy, il sera question de l'avenir d'Arc France, le fabricant historique de verre dans le Pas-de-Calais. On en parle régulièrement. L'entreprise est en redressement judiciaire depuis début janvier. Victor Girard pour RMC, vous avez interrogé syndicats et élus et vous nous dites qu'ils attendent beaucoup de ce rendez-vous.
Oui, c'est avec le cœur lourd que Frédéric Speck se rend à Paris cet après-midi.
L'usine, moi, elle représente ma vie et je connais plein de gens comme ça.
Employé d'Arc France et délégué syndical CGT, il a passé une grande partie de sa carrière dans la verrerie comme mécanicien.
Parce que moi, je suis né là, parce que je suis à côté, parce que je suis rentré là. Ça fait 37 ans que j'y suis.
Alors, imaginez, la disparition de son usine est impensable. Avec les autres syndicats, il se rend à Bercy pour porter un message clair au ministre.
Sauver Arc.
Car selon lui, il faut absolument préserver ce savoir-faire bicentenaire.
En France, on a besoin de production industrielle. Donc ça suffit d'aller produire ailleurs. Le verre a un avenir. Plus personne ne veut de plastique. C'est l'occasion ou jamais de dire allons-y.
Deux offres de reprise sont étudiées par le tribunal de commerce de Lille. Reprise qui pourrait se solder par des suppressions de postes. Le maire d'Arc, Benoît Roussel, est prêt à l'accepter.
Si la situation pourrait être rétablie, il faudrait avoir un peu moins de salariés. Il faut le comprendre, il faut l'admettre. Et donc, il y a tout l'accompagnement de l'État si jamais il y a des salariés qui devraient quitter l'entreprise. J'ai eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de ça.
Le tribunal doit rendre sa décision autour du 10 mars.
On reparle des intempéries ce matin parce que ça n'en finit pas en Bretagne. Le Morbihan est encore en vigilance orange ce matin pour les crues avec encore de la pluie annoncée sur ce département. Sur des sols qui sont déjà gorgés d'eau, ça commence à faire long, nous dit Amélie Courtet, dans le secteur de Malétroit, commune particulièrement touchée. On se met à leur place, ça fait deux semaines qu'ils ont les pieds dans l'eau.
C'est un yo-yo incessant.
Ben, on n'arrête pas. L'eau s'en va, on nettoie. Elle revient, elle s'en va, on nettoie.
Guy vit au bord de l'Oust. La rivière a de nouveau débordé hier. 15 cm d'eau chez lui.
Puis voilà, donc ça va être la quatrième fois qu'on nettoie. Et j'espère que ce sera la dernière pour cette année.
Car depuis 15 jours, les meubles n'ont pas bougé de l'étage. D'autres sont surélevés à l'aide de parpaings. Il aimerait retrouver un quotidien normal.
Ça commence à être long. Le ciel gris et la pluie continuent. Ça joue sur le moral des troupes, comme on dit. Même si la réputation de la Bretagne n'est plus à faire en termes de pluviométrie, mais on a hâte de voir le soleil poindre.
Lui vit ça avec philosophie, mais dans les rues de Malétroit, certains ont besoin d'être rassurés.
C'est que ça dure dans le temps, quoi. Et quand on regarde les prévisions à venir, c'est pas forcément non plus très positif.
C'est un peu inquiétant.
On sait pas trop ce que vont donner les jours à venir.
Alors le maire, Bruno Gicchello, a mis en place une cellule de crise.
On assiste les gens, on les appelle, les élus sont sur le pont, donc on fait ce qu'on peut pour eux. Nous contrôlons la situation, pour le moment.
Il reste très attentif à l'intensité des prochaines précipitations car le sol est déjà gorgé d'eau, ce qui ralentit la décrue.
Alors ça ne va pas faire plaisir aux supporters de l'OM, mais hier soir c'est Marseille qui a pris l'eau au Parc des Princes. Lourdement battu 5-0 par Paris dans le choc du foot français. C'est vous qui commentiez, Jean-Louis Tour pour RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin, Jean-Louis. On va voir si ce match aura des conséquences à Marseille qui s'enfonce un peu plus dans la crise. En tout cas, pour ce qui est de Paris, on a l'impression d'assister au réveil du PSG.
Oui, Ousmane Dembélé disait hier qu'il voulait que les supporters se réveillent ce matin avec la banane. C'est sûrement le cas en ce moment même, car en plus du résultat, le PSG a clairement ajouté la manière, la plus grosse victoire de l'histoire face au rival marseillais, avec pour l'obtenir les ingrédients qui lui ont permis de gagner la Ligue des Champions la saison dernière. On voulait envoyer un message clair, a ajouté Dembélé. On est de retour. Le Ballon d'Or, symbole de ce retour au plus haut niveau, avec un doublé et une débauche d'énergie de tous les instants. D'autres joueurs ont retrouvé leur niveau de la saison passée. Laissons penser que c'est bien une nouvelle saison qui débute pour le PSG. La première d'août à février a été rythmée par les blessures et les méformes. La seconde, de février à mai, c'est celle des matchs qui comptent vraiment, avec en point de mire la quête d'une deuxième Ligue des Champions.
Jean-Louis Tour en direct ce matin pour RMC. Il y avait vraiment les deux visions de l'Amérique cette nuit, lors du Super Bowl aux États-Unis, un des événements les plus suivis là-bas. C'est le chanteur portoricain Bad Bunny qui a assuré le traditionnel show de la mi-temps en plein débat sur la police de l'immigration là-bas. Il a terminé en énumérant, tiens écoutez-le, tous les pays d'Amérique latine avec une procession de drapeaux latino-américains. Vous l'entendez, Bad Bunny. Ça a fait réagir Donald Trump, qui a dénoncé durant la nuit un affront à la grandeur de l'Amérique. Donald Trump a dit qu'on ne comprenait pas un mot des paroles en espagnol. Pour ce qui est des Jeux Olympiques, la France en est à deux médailles ce matin au JO de Milan Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Et alors, on a vibré hier sur RMC avec la médaille d'or dans le relais mix du biathlon, la médaille d'argent pour Mathis Desloges en ski de fond sur le skiathlon. Parmi les rendez-vous du jour, il y aura encore du ski alpin aujourd'hui. Léna Marjac, c'est vous qui suivez ça sur le site de Bormio pour RMC, avec l'épreuve du combiné par équipe chez les messieurs, une descente et un slalom. Par équipe donc.
Dans une équipe, vous associez un descendeur avec un slalomeur. Chacun fait une manche de sa discipline. On cumule les deux temps et les plus rapides s'imposent. La France a décidé d'aligner trois équipes. Nils Allègre, 8e de la descente olympique samedi, sera avec Clément Noël, le champion olympique en titre de slalom.
J'adore ce format, ça donne un peu de peps au ski. C'est que je vais tout donner pour l'équipe.
Je la prends avec vraiment beaucoup, beaucoup de sérieux cette course parce que j'ai envie d'aller chercher une médaille sur ce type de format-là. On a des équipes qui peuvent jouer, mais il va falloir qu'on s'envoie très fort.
Paco Rassa compte bien s'envoyer fort lui aussi. Il fera équipe avec Maxence Musaton.
Ça permet de donner un peu d'esprit collectif dans ce sport individuel, de s'associer avec un descendeur. Je trouve c'est beau et j'ai hâte de prendre part à cet événement. Ouais.
L'an passé au championnat du monde, ils ont tous pu découvrir ce combiné par équipe et c'est un grand oui pour Steven Amier, coéquipier de Nils Alphen.
On vit vraiment la course à fond et crée des émotions que sans vraiment qu'on fait partie d'une équipe et c'est vrai que c'est des émotions que j'avais jamais ressenties avant.
Avec ce combiné, les Bleus espèrent bien ouvrir le compteur de médailles du ski alpin aux Jeux Olympiques.
Et l'autre temps fort, ce sera dans la soirée à Milan, le début du concours de danse sur glace en patinage artistique avec Guillaume Cizeron et sa nouvelle partenaire Laurence Fournier-Baudry. Ce sera vers 20h20 à peu près leur passage.
C'était le journal de Quentin Ville, il est 8h09 sur RMC, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et on va parler automobile, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, le cours de bourse de Stellantis s'est effondré de plus de 25% vendredi, c'est du jamais vu.
Oui, c'est ce qu'on appelle remettre les compteurs à zéro. À l'origine de ce plongeon boursier, la décision de Stellantis de passer dans ses résultats 22 milliards d'euros de charges exceptionnelles. Ça, c'est au titre de 2025. Alors, comptabiliser des charges exceptionnelles, en fait, ça revient à reconnaître officiellement des pertes qui existaient déjà et qu'on entérine et qu'on n'avait pas encore écrit jusqu'à maintenant noir sur blanc. Et là, ce sont des pertes considérables. Il n'y a qu'une dizaine de grandes entreprises qui ont reconnu de tels échecs dans le monde depuis 10 ans, dont beaucoup d'ailleurs dans la construction automobile.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait de telles pertes chez Stellantis?
Alors, les trois quarts de ces provisions sont liées à des hypothèses beaucoup trop optimistes sur le rythme d'adoption de la voiture électrique en Europe, mais surtout aux États-Unis où le marché de l'électrique stagne, freiné par une réglementation devenue moins favorable sous Donald Trump. Et donc, la priorité pour Stellantis, c'est de concentrer ses efforts sur les nouvelles technologies, mais les technologies thermiques et les technologies aussi hybrides. Hein. Stellantis avait supprimé certains moteurs thermiques comme le fameux V8 HEMI aux États-Unis. Il sera réintroduit. Et puis en Europe, c'est pareil, hein, la Fiat 500, c'était un véhicule qui était 100% électrique. Or, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient quand même encore une Fiat 500 thermique ou hybride. Et donc, voilà. Va y avoir du
ça
changement de stratégie.
Ça ne répondait pas aux vraies envies des clients. Stellantis, c'est pas la seule à faire machine arrière. Hein.
Non, alors c'est vrai. General Motors et Ford viennent également d'inscrire des charges exceptionnelles massives pour réduire la voilure dans les véhicules électriques. Mais il n'empêche que les difficultés sur le marché électrique ne sont pas le seul problème de Stellantis. Il y a eu les revers techniques liés aux moteurs PureTech et aux airbags Takata. Et puis, les effets de la politique de prix élevée menée à l'époque de Carlos Tavares, hein, qui ont fait perdre beaucoup de parts de marché à Stellantis. La stratégie de la nouvelle direction aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est une stratégie qui consiste à faire baisser les prix et à compenser évidemment cette baisse de prix et donc de marge par une augmentation des volumes. Ça va être difficile de remonter la pente. Et donc, inutile de vous dire que c'est l'inquiétude hein, aujourd'hui sur la douzaine de sites industriels du groupe en France, sans compter les sous-traitants.
Merci Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint à 8h30. Notez le face-à-face. Mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. On reviendra sur l'explosion de l'hyperviolence. Voilà l'expression de son collègue, le ministre de l'Éducation, qui parle d'une explosion de l'ultraviolence chez les très jeunes, chez les mineurs. Réaction du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après ça, il y aura Nicolas Canteloup, comme chaque matin. C'est à 8h50 sur RMC. Il est 8h12 pour l'heure. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
tous les jours de manche.
Et on repart pour une semaine.
Et c'est tous les jours qu'il est avec nous, salut.
Bonjour les amis, bonjour Apolline. Comme vous êtes satinée ce matin, on a des chances de médailles en satinage artistique. Aux Jeux Olympiques. C'est la radio du sport et des JO. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie d'ouverture?
Des petits morceaux.
C'était nul. C'était mignon, hein, mais rien à voir avec notre glorieuse cérémonie parisienne à nous qu'on avait. C'était kermesse de fin d'année avec les décors en carton, les costumes faits main. Non mais vous avez vu, à un moment il y avait des tubes de peinture géants qui ont déversé du tissu, des grosses têtes de Vivaldi en papier mâché et un défilé avec des acteurs déguisés en cafetière. Non mais nous on avait dégainé la garde républicaine, la tour Eiffel, le heavy metal et les plans à trois. Eux ils ont fait défiler des cafetières quoi. On aurait dit les Miss France, vous savez, avec les meufs déguisées en quiche Lorraine ou avec un chapeau en chapeau de garni. C'était ce défilé là. Alors il y avait Andrea Bocelli quand même, c'était tellement moche qu'ils ont dû prendre un chanteur aveugle. Vous voyez, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Il aurait retrouvé la vue par miracle, il se serait dit « Mais c'est affreux !» Il se serait recrevé les yeux, le pauvre. Même sur CNews, ils ont trouvé que ça manquait un peu de blasphème. C'est vous dire. À propos de CNews, Sonia Mabrouk quitte la chaîne courageusement, il faut le dire. Hein, après tant d'années à travailler aux côtés de Jean-Marc Morandini et alors que toutes les pièces du dossier étaient connues depuis 2016, Sonia Mabrouk a enfin trouvé le courage d'estimer, après 10 ans de réflexion intense, que tout ça... c'était pas très bien. Enfin, c'est toujours mieux que ceux qui restent sur CNews. C'est déjà ça. Sonia Mabrouk avait déclaré être très mal à l'aise du soutien de Jean-Marc, du maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Et le lendemain, Pascal Praud avait dit j'ai vu les propos de Sonia Mabrouk. J'aurais pu dire la même chose. Eh oui, j'aurais pu. Des fois, je sens que ça me démange. J'étais dans le bureau de Serge Nedjar, notre patron, l'autre jour. J'étais vraiment à ça. Hein. Je me suis dit, retenez-moi ou... Et il m'a retenu, heureusement. Allez, assez parlé de mes états d'âme. Quel est le programme, Jean-Marc Morandini? Eh ben, on va parler de Jack Lang. Ah oui, quelle histoire, ça aussi. Ce sentiment d'impunité chez les gauchistes, c'est quand même fou.
Ce week-end, Jordan Bardella était en déplacement au Cap d'Algue.
Oui, au Cap d'Algue, il y était pour les municipales. Il a pu rencontrer le maire de la ville, Patrick Sébastien. Il m'a dit, salut. Bienvenue au Cap d'Agde, je te sers la bite. Je vous trouve bien inélégant, monsieur Sébastien. Jordan Bardella, qui a été ému par sa visite du camp naturiste. Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Les gens sont dans le dénuement. Tous ces retraités n'ayant pas les moyens d'acheter des vêtements. Je trouve ça bien inélégant, madame de Malherbe. Il a dû faire plein de selfies au Cap d'Agde, avec des messieurs qui disaient « Je vous adore, Jordan !» Je vois. Et si on allait mettre un pantalon?
Oh allez, fais pas ta mijaurée, c'est décontracté ici. On a fait une orgie avec tous les retraités jusqu'à 4h du matin.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Où est-ce qu'il trouve?
Jack Lang a donc proposé sa démission à la présidence de l'Institut du Monde Arabe, au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Ce dernier a pris acte de l'offre de démission.
Oui, ça pouvait pas rester comme ça, il fallait que le pouvoir tape. Je pense d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a besoin de faire un exemple avec Jack Lang. Il peut en plus. Je veux dire, Macron, il est insoupçonnable de faire partie des dossiers Epstein. On peut pas le soupçonner de coucher avec des jeunes filles mineures. Emmanuel Macron, c'est un truc qu'on peut pas. Donc Jack Lang a donné sa démission.
Non, pas les petites.
Mais non, mais Jack Lang a donc donné sa démission au Quai d'Orsay.
Oui.
Bonjour jeune homme. J'ai rendez-vous avec mon ami Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères.
Non, c'est moi le ministre.
Roland, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Tu les as tous perdus. Regarde, moi j'ai de la chance. Pas un cheveu blanc, à mon âge.
Oui, Jack Lang, j'aimerais vous parler de Jeffrey Epstein.
Un homme merveilleux. Vous l'avez rencontré chez Woody Allen. Et vous avez raison, il faut rendre hommage à Jeffrey. Organisons chaque année la fête de la lubrique.
Non. Je suis désolé de vous dire que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire contre vous et votre fille Caroline Lang, d'ailleurs, hein, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.
Mais tout ceci est ridicule. Cette Caroline Lang est une vague connaissance. Je l'ai connue chez Woody Allen en 1978. Woody m'a félicité pour la beauté de ma femme. Je lui ai répondu que c'était ma fille. Après, je lui ai présenté ma femme. Woody m'a dit, je croyais que c'était ta mère. Et nous étions tous ensemble.
Ce dialogue est exceptionnel.
Nous étions tous ensemble à parler cinéma dans le jacuzzi de sa propriété avec Roman Polanski qui nous a présenté sa fille. qui se trouvait être la mère de la fille de Woody Allen. Oh, non. Et puis Claude François nous a dit « Attendez les gars, on n'y voit rien, je vais régler la lumière. » Il s'est mis debout dans le jacuzzi, ça a fait « Et depuis, j'ai cette coiffure. »
C'est l'explication,
ça vient de là.
Oh là là là, ça vient de là.
Il a démissionné. Où est-ce qu'on va pouvoir recycler Jack Lang maintenant? Eh ben, dans la poubelle jaune. C'est là, le plastique. Allez, à demain. Au bisou.
Arnaud de Manche, comme tous les jours, pour notre plus grand bonheur. Il est 8h21.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Vous l'entendez? C'est la roue RMC, parce que ce vendredi, nous serons le vendredi 13. La roue RMC est donc de retour. Jusqu'à 30 000 euros à gagner grâce à la roue RMC. 30 000 euros cash, net d'impôts. Alors pour jouer, vous envoyez 13 en lettres, 13 en chiffres, comme vous voulez. Vous envoyez 13 au 7-32-16. Au 7-32-16, et vous avez 10 minutes pour jouer. Il est 8h21, vous avez donc 10 minutes pour envoyer 13 au 7-32-16. Bonne chance à tous. Et au 32-16, il y a Marie qui nous appelle. Ça fait beaucoup de chiffres, hein. Je vous ai peut-être perdu là dans la roue. 13 au 7-32-16. Et Marie qui nous appelle au 32-16, le standard d'RMC. Bonjour Marie.
Bonjour. Marie. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Marie, vous êtes menuisière dans la Manche.
Oui.
Soyez la bienvenue ce matin. Vous vouliez réagir à cette transparence des salaires dans les entreprises. Je vous écoute.
Oui. Alors, j'ai peur de me faire taper sur les doigts par les autres dames qui travaillent dans le BTP, mais parce qu'en fait, ce matin, j'entendais en parler des différences de salaire, etc.
Ouais.
Moi, par exemple, en travaillant dans le BTP, je suis une femme, je fais 1m60, je pèse 60 kilos. Moi, mes collègues, c'est des gros bonhommes. Mm. Donc, ils travaillent plus vite. Ils travaillent, ils sont moins fatigués que moi à la fin de la journée, donc ils sont plus productifs. Et par exemple, admettons, j'ai le même diplôme, j'ai la même expérience, la même exigence de travail, je travaillerai toujours moins.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire, Marie, que vous comprenez d'être moins payée qu'eux? Vous comprendriez d'être moins payée qu'eux?
Oui.
Mais vous n'auriez pas d'autres trucs à valoriser, Marie?
Pas une différence non plus, pas une
Marie, je vais vous aider.
Tout, hein.
Marie, je vais vous aider dans la négo, là, ça va pas du tout. Marie, il faut que je vienne vous voir pour vous coacher.
Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si eux, ils font gagner plus d'argent, c'est normal qu'ils en aient plus à la fin.
Oui, alors, je comprends très bien, c'est-à-dire de votre point de vue, qui est un point de vue aussi, justement, libéral, de se dire, bon, ben, au mérite et au nombre de, je sais pas, de charpentes ou de choses montées, vous vous dites à la fin, et s'ils en font plus, ils feront mieux gagner leur vie. Mais Marie, vous avez peut-être, justement, je sais pas, une précision, d'autres choses, une expertise à faire valoir. Marie, il faut que je vous aide, là.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, je pense que je suis équivalente aux autres. Mais si, admettons, ils voient, eux, comme ils mettent, par exemple, à portée des choses, etc.
Ils vont
se dire, elle est mieux payée ou elle est payée pareil que nous, mais elle en fout moins.
Non, mais j'entends très bien. Je trouve extrêmement intéressant votre point de vue parce qu'il est très très rare d'entendre quelqu'un qui dit, écoutez, il bosse plus techniquement que moi. Je ne peux pas porter ce matériel. Je ne peux pas faire ceci. En tout cas, vous faites un bien beau métier, Marie, et je suis très heureuse de vous avoir accueillie ce matin. C'est intéressant aussi cette liberté de penser différemment. Marie, à très bientôt sur RMC. Il est 8h24. Dans un instant, mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ça se passe sur RMC, BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu à mon invitation ce matin. De très nombreuses questions à vous poser, notamment aussi après les déclarations du Premier ministre sur l'aide médicale d'État, sur l'accueil des étrangers, la question aussi des liens avec l'Algérie. Mais je voudrais commencer par ce que votre collègue ministre de l'Éducation appelle l'explosion de l'hyperviolence chez les jeunes. Il parle même d'une banalisation de la violence et il donne ce chiffre. 525 élèves entre mars et décembre ont été interceptés avec un couteau, il l'a dit chez nos confrères d'RTL. Est-ce que vous utiliseriez la même expression d'explosion de l'hyperviolence chez les jeunes?
Oui, j'utiliserais exactement la même expression. Par contre, il faut clarifier les choses. La part des mineurs dans la délinquance depuis 2016 ne cesse de baisser. C'est-à-dire, si on prend le total des mis en cause, quels que soient les items de la délinquance, le pourcentage de mineurs baisse. Ce qui interpelle, c'est que d'abord, malgré cette baisse, il reste très présent dans les violences physiques hors contexte familial. On a encore une personne mise en cause sur cinq est un mineur. Sur les cambriolages, ça peut aller, c'est également 1 sur 5. Et surtout, sur les vols violents, c'est encore 1 sur 3. Donc c'est beaucoup, même si ça baisse.
Ça veut dire qu'ils sont moins nombreux à être violents, mais quand ils sont violents, ils sont plus violent qu'avant.
Voilà. La délinquance des mineurs, statistiquement, on ne constate pas une augmentation. Au contraire, le pourcentage dans les mis en cause baisse. En revanche, et c'est là évidemment, je rejoins totalement mon collègue Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale. Ce qu'on constate, c'est que la violence s'invite dans les relations pour des motifs extrêmement futiles. On a de plus en plus d'usage d'armes blanches. Et oui, on peut parler d'une montée de la violence chez les jeunes. C'est un véritable fait de société. Mais ça voilà, en termes de délinquance statistique.
Alors, une fois qu'on a posé les chiffres, il y a les chiffres.
Ça me paraît important de le redire.
Il y a les chiffres, et vous l'avez dit, donc il y a moins de mineurs mis en cause, mais ceux qui sont mis en cause sont extrêmement violents. Moi, j'ai aussi ce chiffre sous les yeux. Le nombre d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel, violence aggravée, a quasiment doublé depuis 2017. Donc, pour ces faits d'ultra-violence, il y a des mineurs. Et puis, effectivement, vous le disiez, la violence entre eux, entre mineurs, avec cette hyper-violence dont il parle. Est-ce que vous utiliseriez aussi le mot d'ensauvagement ?
Non, moi, j'utilise pas le mot d'ensauvagement. Voilà.
Il y a une montée de la violence.
Il y a une montée de la violence des jeunes. Il y a une action répressive qui est menée. Vous savez, les 525 armes qui ont été saisies, armes blanches qui ont été saisies depuis mars dernier, c'est dans le cadre de contrôles qu'on organise avec les responsables des autorités de l'éducation nationale, les responsables de chaque établissement, policiers, gendarmes, aux abords des établissements scolaires, à l'entrée ou à une périphérie un peu plus éloignée. Et donc, on a densifié les contrôles. Voilà, on mène une action qui est aussi une action répressive.
1500 contrôles par mois sur c'est tout le territoire. Vous restez contrôles. Sur ce chiffre-là?
Oui, on reste sur ce contrôle. Alors, ce sont des contrôles qui ont lieu soit à l'entrée des établissements scolaires, soit diligentés par les forces de sécurité intérieure à proximité immédiate. Ça a été lancé de manière soutenue depuis mars dernier. Donc, il y a bientôt un an et on continue évidemment ces contrôles.
Mais maintenant, on fait quoi?
Non mais attendez, maintenant on fait quoi? Vous savez, moi je suis le ministre de l'Intérieur en charge et responsable des policiers et des gendarmes. Nous on mène une action répressive. Vous savez, dans l'action que mène l'ensemble des effectifs du ministère de l'Intérieur, les forces de sécurité intérieure, nous on ne connaît pas l'excuse de minorité. Donc on interpelle des délinquants, on ne connaît pas l'excuse de minorité. Mais vous voyez bien que les policiers et les gendarmes ne peuvent pas tout. Et d'ailleurs je crois que le ministre de l'Éducation nationale l'a dit. Il y a besoin aussi dans ce pays d'un choc d'autorité à tous les niveaux. Au niveau évidemment des parents, des associations, des collectivités locales pour la prévention de la délinquance. Voilà, il faut que tout le monde prenne à bras le corps ce problème.
Là vous êtes en train de me parler tout sauf de la justice. C'est-à-dire vous me dites qu'il faut un choc d'autorité dans l'éducation, chez les parents. Mais à la fin des fins, est-ce qu'ils sont jugés comme il devrait l'être? Je vous donne deux exemples sur les derniers jours. Il y a eu donc cette jeune fille dans le Rhône qui a été prise dans un traquenard et torturée par d'autres jeunes mineurs. Il y a eu cette jeune fille à la sortie de son collège à Saint-Genis-Laval. Il y a eu Théo à Lyon. Théo, parmi ses agresseurs, il y aurait, mais vous allez me confirmer si c'est le cas, un jeune de 14 ans. 14 ans est déjà connu pour 25 faits, dont des faits de torture. C'est juste?
Moi, je n'ai pas à me prononcer sur des décisions judiciaires. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, dans le choc d'autorité, il y a aussi la justice. Je ne l'ai pas cité, mais il y a aussi la justice.
Quand on est connu pour 25 faits,
il faut qu'à tous les étages, on rappelle l'autorité. Voilà, à tous les étages, évidemment, y compris au niveau des décisions de justice qui sont prises. Mais encore une fois, je le redis, les magistrats ne font appliquer les lois telles qu'elles sont faites.
Est-ce que l'excuse de minorité, au fond, est devenue un argument pour parfois même utiliser, manipuler un certain nombre de jeunes, quand on voit par exemple à Grenoble l'enlèvement de cette femme magistrate et de sa mère sur fond de crypto-monnaie, puisque l'époux de la magistrate travaille dans les crypto-monnaies et qu'il lui a été demandé effectivement une rançon. Les ravisseurs, dont une fille d'ailleurs, ont moins de 20 ans et il y a au moins un mineur. Est-ce que le fait qu'il y ait cette excuse de minorité dans la justice fait que parfois on irait, quand on est ravisseur, chercher des mineurs pour leur faire commettre les basses œuvres? Alors, est-ce qu'au fond ça ne s'est pas retourné contre les mineurs eux-mêmes qui sont désormais manipulés parce qu'on sait qu'eux ils prendront moins que les autres?
Alors d'abord, dans ce type d'affaires qui relève de la criminalité organisée, on enlève des personnes qui sont des entrepreneurs de crypto-monnaie ou qui en détiennent, on enlève leurs proches, pour faire pression sur eux, obtenir une rançon. Dans ce type d'affaires, c'est de la criminalité organisée. Je pourrais vous dire la même chose pour le trafic de stupéfiants. Oui, il y a des commanditaires qui, généralement, ne sont pas forcément sur le territoire national. pas forcément sur le territoire national, qui utilisent effectivement des délinquants, des voyous locaux, des petites mains, on va dire, des petites mains, même s'ils ont des profils très sérieux en termes de condamnation judiciaire, ils sont connus des services de police, et oui, très jeunes en général, et vous avez raison, il peut y avoir effectivement des mineurs. Évidemment que le fait d'envoyer des mineurs, les expose moins en termes de sanctions pénales, évidemment. Et c'est évidemment pour ça que l'excuse de minorité pose question, interpelle. En tout cas, je vous le redis, pour les policiers et les gendarmes, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'excuse de minorité. La personne qui a... Vous dites qu'il y a au moins un mineur, je ne confirmerai pas cette information parce qu'elle relève de la procédure judiciaire, a supposé que ce soit le cas. Vous savez, elle a été interpellée de la même façon. Elle a été interpellée de la
mais
même façon.
Mais elle ne sera pas jugée de la même façon.
Vous savez, à 17 ans, quand vous enlevez, à 17 ans, quand vous enlevez une magistrate et sa mère pour obtenir une rançon, je pense que oui, quand même. Franchement, je pense que oui.
Mais quand vous dites l'excuse de minorité interroge, est-ce que vous estimez malgré tout qu'il faut ouvrir cette question et se poser la question de l'excuse de minorité?
Bien sûr.
Ça veut dire aussi envisager de la supprimer.
Mais bien sûr qu'il faut envisager. Moi, je vous parle à titre personnel. Je ne vais pas parler à la place du garde des Sceaux. Quand vous voyez le nombre de mineurs qui sont impliqués dans des faits graves, le nombre de mineurs impliqués, par exemple, dans les homejacking, qui sont les séquestrations à domicile pour dérober des biens, quand vous voyez les mineurs qui sont impliqués dans le narcotrafic, quand vous voyez les affrontements qu'il y a entre jeunes où on utilise des armes blanches et qui baissent encore, Apolline de Malherbe, qui baissent cette année par rapport à l'année dernière, le volume d'affrontements entre jeunes, n'empêche que l'intensité de la violence dans ces affrontements monte, évidemment qu'il faut se poser la question, évidemment.
On y reviendra également, cette interview du Premier ministre Sébastien Lecornu à la presse quotidienne régionale. Il y a deux points qui vous concernent, la question de l'AME et la question de la renégociation éventuelle des accords d'Algérie. Sur l'AME, l'aide médicale d'État, c'est donc cette aide médicale qui est réservée aux clandestins en France. Il dit que certes, il va y avoir davantage de contrôle sur les bénéficiaires. Il a d'ailleurs publié un décret qui demande, par exemple, et on découvre que ça n'était pas le cas, donc jusqu'à présent, une pièce d'identité avec photo pour bénéficier de l'AME. Avant, on pouvait bénéficier de l'AME sans pièce d'identité avec photo. Mais il dit on ne va pas toucher au panier de soins. Est-ce que aujourd'hui le panier de soins pour les titres de séjour pour soins, qui font partie aussi des titres de séjour pour rentrer en France, vous paraît OK? Est-ce que vous vous dites qu'il n'y a rien à changer, comme lui?
D'abord, le Premier ministre, il ne dit pas qu'il n'y a rien à changer.
Il dit on ne changera pas le panier de soins.
Il ne dit pas qu'il n'y a rien à changer. Il dit qu'il y a eu un rapport, qui était le rapport Evin Stefanini, sur l'aide médicale d'État, qui bénéficie, je le redis pour vos téléspectateurs, auditeurs, aux étrangers en situation irrégulière, qui est une aide médicale sanitaire d'urgence. Il s'agit d'éviter qu'on ait des épidémies quand même. Donc elle a un motif.
En fait, c'est pas d'urgence. Rappelle... Enfin, vous dites d'urgence,
non, c'est
mais
pas d'urgence.
Justement,
c'est l'aide
attention,
d'État.
C'est tout le problème. Oui. Pardon. Mais précisément, non, certains voudraient que ça ne soit
Apolline
réservé qu'aux actes d'urgence.
Oui, certains voudraient cela,
c'est
mais
pas le cas.
Ça n'est pas le cas. C'est l'aide médicale d'État qui vise à éviter qu'on ait des épidémies, des maladies qui se propagent. Et donc, ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il n'est pas question de la remettre en cause. En revanche, il faut en revoir les modalités de fonctionnement. Il a publié effectivement des décrets qui reviennent.
J'ai vérifié, ils ont été publiés dans la nuit de dimanche à lundi.
Deux décrets qui mettent en place une partie des propositions du rapport Evin Stefanini, dont celle effectivement d'accompagner les pièces justificatives produites de photos, et par ailleurs celle qui permettra aux postes consulaires qui délivrent des visas partout dans le monde, de pouvoir avoir accès aux bases de données des bénéficiaires de l'AME pour éviter qu'il y ait des fraudes et des personnes qui ne viennent sur le territoire national que pour se faire soigner.
Donc ça, c'est sur l'accès à l'AME.
Et sur le panier des soins, sur le reste, le Premier ministre n'a rien exclu. Il a dit qu'il fallait y réfléchir, et évidemment, nous y réfléchirons.
Mais il dit, pour l'instant, les choses ne sont pas prêtes. Je voulais vous poser une question.
Exactement.
Il y a notamment les troubles psychiatriques qui sont aujourd'hui un motif d'obtention de titre de séjour pour soins. Quand on voit l'état de la psychiatrie en France, les manques cruels de la psychiatrie en France, est-ce que vraiment le fait de pouvoir prétendre entrer sur le territoire parce que précisément on a un trouble psychiatrique, ça ne vous pose pas question?
Alors d'abord le titre pour soins, il y a très peu de titres, hein, je n'ai plus le chiffre en tête, mais d'abord ça s'effondre.
35 000 à peu près cette année.
Ça s'effondre, hein, le chiffre ne cesse de baisser. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, la plupart des gens qui sollicitent ce titre pour soins sont déjà sur le territoire national et ont déjà un titre de séjour à un autre titre. Donc il faut relativiser tout ça. On est, je crois que c'est 15% de l'ensemble des demandes de personnes qui sont à l'étranger.
Je pose juste la question pour le principe. Est-ce que vous considérez qu'un trouble psychiatrique doit être un argument pour obtenir un titre de séjour?
Il faut que ce soit des traitements, il faut que ce soit des maladies qui soient graves et que dans le pays dont est originaire la personne, on n'ait pas un traitement approprié qui permette de soigner cette maladie.
Mais ça veut dire qu'on accueille ici, ou alors qu'on garde ici des gens qui ont des troubles psychiatriques pour lesquels on a peu de moyens de lutter.
Ça doit concerner un nombre limité de personnes. Vous savez, la plupart des titres pour soins sont pour des maladies graves, sont pour des cancers, voilà. Et encore une fois, 16% des personnes sont à l'étranger. Donc voilà, il faut relativiser tout ça. Et l'attribution de ce titre n'a cessé de baisser au fil des années.
Laurent Nunez, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui dit qu'il estime qu'il faudrait faire une pause dans l'immigration?
Le propos qu'a tenu Gérald Darmanin, c'est un propos qui était un propos personnel, qui s'inscrit dans une perspective plus longue. Je pense que ça vous a pas échappé, Apolline
oui,
de Valère.
Oui, probablement dans une perspective même de présidentielle ou d'élection.
Je respecte tout à fait cette proposition, mais elle s'inscrit dans une perspective plus longue. Moi, je m'en tiens à l'interview qu'a donnée le Premier ministre hier.
Est-ce que vous considérez que c'est une question qui peut se poser, temps, dit-il, effectivement, de tout remettre à plat?
C'est une question qui peut se poser, mais je vais vous répondre. Je vais vous dire précisément ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, parce qu'on y travaille, c'est d'avoir une meilleure régulation des visas, d'avoir une immigration qui soit mieux contrôlée, mieux pilotée, mieux choisie, d'avoir une meilleure régulation des visas, notamment des visas long séjour qui sont demandés à l'étranger, pour pouvoir orienter vers des activités sur lesquelles nous avons des besoins, et puis surtout utiliser les visas aussi comme arme de rétorsion pour ceux des pays qui n'acceptent pas de reprendre leurs étrangers.
Lorsque dans cette interview où le Premier ministre parle d'une renégociation de l'accord de 1968, il dit « celui-ci ne correspond clairement plus à nos intérêts et il y a urgence à aboutir ». Est-ce que vous irez en Algérie comme vous aviez d'ailleurs à ce micro dit que vous iriez ?
Alors il y a plusieurs choses dans votre question, il y a deux choses. La première, c'est l'accord franco-algérien. Bon, effectivement, l'accord de 1968, je crois que le président de la République a annoncé, et le président Tebboune à un moment l'avait accepté, qu'il puisse y avoir une renégociation. Cette renégociation, on va y travailler. Pourquoi ? C'est un accord de droit au séjour. C'est ce qui régule le séjour des Algériens sur le territoire national. Il n'applique pas le droit commun, on n'applique pas le code du séjour. Et il y a un certain nombre de facilités qui sont accordées, notamment pour l'immigration familiale, et il y en a un peu moins pour l'immigration économique. Or, on veut rééquilibrer l'immigration économique dans notre pays, avoir un peu plus d'immigration économique, d'immigration familiale. Donc il y aura une discussion sur ce sujet. Après, il y a le deuxième sujet, qui est mon déplacement en Algérie, pour aller parler de questions de sécurité, notamment la question des réadmissions, la question de la lutte contre le terrorisme, contre le narcotrafic. Et j'ai été invité par mon homologue, le ministre de l'Intérieur algérien, et nous préparons cette visite.
Donc cette visite est dans les tuyaux.
Elle est dans les tuyaux, elle est en cours de préparation.
Sur le fond.
J'ai toujours une invitation en cours de mon homologue.
Mais est-ce qu'à un moment vous y répondrez? C'est ça que je veux dire.
Bien sûr, j'y répondrai. Voilà, on travaille aux conditions de cette visite. Et puis surtout, je me félicite de ce que les échanges sécuritaires ont repris entre les deux pays.
Les échanges sécuritaires ont repris. Est-ce qu'ils reprennent aussi des OQTF?
Pas pour l'instant.
Toujours pas.
Pas pour l'instant.
Toujours pas. Ça bloque.
Pas pour l'instant. Il y a un certain nombre de départs volontaires, mais pas pour l'instant.
Et donc, ils restent pour l'instant dans les.
Mais on y arrivera.
Ils sont où? Enfin, ceux qui doivent partir et qui sont encore là.
Il y en a beaucoup dans les centres de rétention administrative et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une évolution de la situation.
Vous avez vu la déclaration?
On a 40% de ressortissants algériens dans les centres de rétention administrative actuels.
Est-ce que vous avez vu la déclaration de la première ministre du Danemark? Elle annonce que le Danemark va désormais expulser tous les étrangers condamnés à des peines d'un an de prison et plus. Voilà ces mots. Les étrangers délinquants condamnés à au moins un an de prison ferme pour des crimes graves, tels que violence aggravée ou viol, doivent être désormais expulsés. Ça rentrera en vigueur le 1er mai. Et elle invite, tout comme le Royaume-Uni, les Européens à changer leurs règles pour pouvoir désormais expulser plus facilement les étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais j'en pense que c'est déjà ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on fait. On a déjà des possibilités d'expulsion ministérielle, préfectorale pour des troubles à l'ordre public. On a la loi de 2024 qui permet de retirer des titres, de ne pas renouveler des titres lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public. Voilà, c'est déjà ce qu'on fait.
Et ça marche.
L'année dernière, on a refusé on n'a pas renouvelé des titres au titre de troubles à l'ordre public, ce qui n'était pas possible avant la loi de 2024 pour des faits un peu moins graves, on va dire. On a procédé à plusieurs milliers de retraits de titres. Et puis il y a des arrêtés d'expulsion, effectivement, qui sont mis en œuvre. On a plus d'un millier de personnes qui ont été expulsées l'année dernière du seul fait des troubles à l'ordre public.
Sur combien qui devaient l'être? Sur combien qui devaient l'être? Il y en a 1000 qui ont été expulsés. Il y en a combien que vous auriez voulu expulser dans l'absolu?
Non, mais la question, c'est est-ce qu'on expulse tous les auteurs de troubles à l'ordre public? C'est très important.
Non, voilà. Ma question, c'est proportion par rapport à ce que vous souhaiteriez faire. Quand vous dites que les OQTF, par exemple, de nationalité algérienne ne peuvent pas partir.
On prend un arrêté d'expulsion. Le Danemark a les mêmes problèmes que nous, Il faut qu'ils obtiennent des laissez-passer. Il faut que donc.
Bien sûr.
On a pris des arrêtés d'expulsion qu'on ne pouvait pas prendre avant grâce à la loi 2024 qui a abaissé le seuil de tolérance, entre guillemets, des troubles à l'ordre public. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et on expulse effectivement des personnes. On a eu 25 000 personnes qui sont reparties. 25 000 personnes qui sont... Non, je dis pas que les choses vont mieux. Je dis que on est parmi les pays d'Europe qui expulsons, reconduisons le plus, à égalité avec l'Allemagne. On se fait une course avec l'Allemagne, mais on est au top niveau.
Laurent Nunez.
Et donc, ce que je vous dis, c'est attention quand vous parlez des mesures. Le Danemark a les mêmes difficultés que nous. Il faut obtenir des laissez-passer, il faut reconduire des personnes. Mais nous avons un arsenal juridique qui nous permet d'expulser les personnes qui causent des troubles à l'ordre public.
Jean-Luc Mélenchon a réagi au fait que la France insoumise soit désormais classée à l'extrême gauche. Nunez innove et trouble l'ordre public électoral. Il vous accuse personnellement en changeant les étiquettes des partis politiques. Alors qu'en 2020 et 2023, LFI était classé à gauche, le ministre décide à la Trump de nous classer à l'extrême gauche. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est faux. Enfin, d'abord, il parle d'étiquette. D'abord, je vais peut-être expliquer les choses. C'est la circulaire sur le nuançage qu'adresse le ministre de l'Intérieur à tous les préfets. Le nuançage, c'est une façon de rendre les résultats électoraux plus lisibles.
Chaque élection.
Plus lisibles pour nos concitoyens, pour les médias. Et à chaque élection, on réexamine ce nuançage. Il évolue en permanence. Et on tient compte. Alors d'abord, ça concerne pas les étiquettes, hein. L'étiquette LFI, elle reste, les candidats peuvent se revendiquer, heureusement, librement de l'étiquette LFI. Il peut y avoir des listes LFI. Il y a trois types de nuances. Vous savez, le nuançage individuel. Pour les personnes qui appartiennent à une liste, vous avez le nuançage de liste, ça on change pas, hein. Vous avez toujours
et
la
vous
nuance.
Vous avez la question du parti. Il dit de vous que vous décidez à la Trump.
Non, mais attendez, je termine. Vous avez le nuançage individuel. Vous avez le nuançage de liste. Il y a toujours dans le nuançage. Regardez la circulaire. Il y a toujours la LFI. Ce qui change, c'est qu'on regroupe les résultats en six blocs. Il y a six blocs. Vous avez un bloc extrême gauche, un bloc de gauche, un bloc divers, un bloc centre, un bloc de droite, un bloc extrême droite.
OK.
Il y a six blocs. Et on a fait passer la France insoumise du bloc de gauche au bloc extrême gauche. À partir d'une analyse qui a été faite, qui repose, on travaille
comme ça. Mais ça, il le sait, Jean-Luc Mélenchon. Il dit pourtant que vous décidez à la Trump et que vous avez décidé de troubler l'ordre public électoral.
Non, je décide pas à la Trump. On prend un faisceau d'indices. Et parmi ce faisceau d'indices, on a reconnu trois éléments. Depuis l'été dernier, personne ne peut nier que la France Insoumise...
Mais il met en doute même la qualité des élections, puisqu'il dit « Peut-on encore avoir confiance dans les élections si quelqu'un truque les étiquettes politiques ?»
On ne truque pas les étiquettes politiques. C'est une question de recensement des résultats. On a, encore une fois, je vous redis les trois critères qui ont fait qu'on a classé la France Insoumise à l'extrême-gauche. Et j'assume totalement ce choix. Le premier, c'est qu'il y a quand même, depuis l'été dernier, chez la France Insoumise, une remise en cause très forte de l'autorité judiciaire, de l'autorité... Parfois des médias qui sont accusés de parti pris. Et puis, il y a ces accusations systématiques de la police tue, etc. Vous voyez bien que depuis l'été dernier, il y a une évolution vers une forme de radicalité, parfois des appels à la désobéissance civile. Bon. Le deuxième point qu'on a pris en compte, c'est quand même, il y a quand même peut-être une forme de désalliance aussi au sein du bloc de gauche avec la France Insoumise qui appelle à sanctionner notamment le Parti Socialiste qui monte des listes contre la gauche traditionnelle. Et puis troisième argument qu'on a pris en compte, pardon, mais on peut considérer que la France Insoumise s'éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines en donnant la primauté aux aspects communautaires de l'organisation de la société, aux aspects identitaires. Et donc c'est à ce titre-là qu'on l'a classé à l'extrême gauche.
Et que vous assumez. Merci Laurent Nunez d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était mon invité ce matin. Laurent Wauquiez, vous voulez dire un mot?
Oui, bonjour Madame Malherbe. Bonjour, oui, je suis en face de vous, oui. Oui, je sais que vous kiffez quand on attaque cette rubrique un lundi matin avec Laurent Wauquiez. Je sais que je te plais, Apolline. Le Georges Clounet du Puy-en-Velay. Bref, bravo à Laurent Nunez. Franchement, c'est beau comme il a géré. Il a réussi en quelques mois la lourde tâche de redresser le ministère de l'Intérieur. Un ministère de l'Intérieur laissé dans un état déplorable, il faut rappeler, après le passage lamentable d'un homme qui était plus intéressé par ses ambitions présidentielles que par la sécurité de nos concitoyens.
Vous parlez évidemment de Bruno Retailleau.
Voyez, je n'ai même pas cité son nom, vous savez tout de suite de qui je parle. Tellement il a marqué les esprits en plongeant le pays dans le chaos. Alors, cher Laurent Nunez, si vous avez des conseils à me donner pour réussir à succéder à Retailleau à la tête des Républicains quand il va se planter dans peu de temps, Eh ben, je suis preneur.
Merci beaucoup, Laurent Wauquiez.
De rien, mon poussin.
Non, non, quand même. Oui, mais... Bon, bref, Laurent Nunez, quel est votre avis personnel sur les trois sujets qui nous intéressent ? L'aide médicale d'État, l'immigration, la violence des jeunes.
Écoutez, Madame de Malherbe, moi, je suis avant tout là, vous le savez, pour rassurer, pour...
Ça, on l'a bien fait.
Pour... minimiser le plus possible les éléments que vous me donnez. Vous parliez de meurtre tout à l'heure, je préfère parler d'aide à la fin de vie.
Oui.
Vous me parliez de drogue, je préfère parler d'aide médicale citoyenne. Vous savez, j'ai un secret pour ne jamais répondre aux questions, c'est de répondre en termes d'effectifs de policiers et de gendarmes. Mmh. Ça marche à tous les coups. Mmh. Hein. Vous posez une question sur une manifestation, écoutez, on a mis en place tous les effectifs pour éviter les débordements. Mmh. Vous posez une question sur un événement sportif, écoutez, nous avons mis en place tous les effectifs pour sécuriser les abords du stade. Mmh. Je peux répondre à n'importe quelle question. même n'est plus incongru. Est-ce que je suis une femme? Écoutez, nous avons mis tous les effectifs de police scientifique qui sont mobilisés sur le sujet pour répondre à cette question.
Vous n'avez pas posé la question, mais maintenant que vous le dites. Merci,
Vous m'avez envoyé beaucoup de mauvaises nouvelles sur lesquelles je dois répondre. De toute façon, pour faire simple, Madame de Malherbe, sachez une chose, sur le terrain, je suis d'accord avec vous, les résultats ne sont pas au niveau. Mais ce qui est rassurant, c'est que tous mes chiffres sont bons.
Merci Laurent Nunez. Allez, sans attendre, on retrouve Pascal Praud pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à l'élégant Thibaut Texer, Arnaud de Manche et tous les sous-fifres qui sont au fond de ce studio. Laurent Nunez, un homme grand, fort et beau, c'est sur lui que nous comptons pour nous protéger des hordes de migrants sanguinaires qui débarquent chaque jour un peu plus nombreux dans notre pays. Mais si, ne faites pas ces grands yeux, Apolline, si, excusez-moi, regardez ces news et vous verrez, c'est dans tous les journaux en tout cas de notre chaîne. Allez, municipal, nous en parlions, le ministère de l'Intérieur et Laurent Nunez ont classé les candidats municipaux de la France Insoumise dans l'extrême gauche. Eh bien écoutez, merci, je dis merci, il était temps. Les Insoumis rejoignent ainsi tous les autres partis d'extrême gauche, le PC, les Verts, Place Publique, le PS Lyotte, le Modem, Renaissance, les Républicains, voilà. Mais oui, mais c'est quand même plus clair pour nos électeurs, voilà. Et puis football, je vois la triste mine de Thibaut Texer. Large victoire du PSG 5-0 face à l'OM. On retrouve tout de suite la réaction de l'entraîneur parisien, Luis Enrique.
Et 5-0, c'est bien, on a marqué les buts. Et on a juste seulement corrigé le Marseillais. Alors qu'on aurait pu encore faire mieux et les humilier. Et on est premier. On est premier au classement. C'est bien. Mais moi, j'attends que mes joueurs et qu'ils font encore mieux. Que j'attends qu'il fasse mieux que premier. C'est comme ici dans le studio, ça rigole. Mais j'attends que c'est pas la folie, pas le délire. Il va faire la folie.
Merci, monsieur Enrique. Embourbé dans l'affaire Epstein, Jacques Lang a proposé sa démission à la présidence de l'Institut du Monde Arabe. Philippe de Villiers, bonjour. Vous êtes choqué par Jacques Lang?
Évidemment. Ce qui est choquant, mais c'est malheureux, c'est pas tant cette histoire d'annexe de pédocriminalité. À CNews, nous sommes ouverts d'esprit sur le sujet. Et puis il y a la notion du pardon. Est-ce pratique le pardon? Ce qui est fou, c'est l'existence sur le territoire d'un institut du monde arabe. Et en plus, avec à sa tête un socialiste. On est en plein islamo-gauchisme.
Selon vous, qui devrait prendre la présidence de l'Institut du monde arabe?
Qui? On s'en fout, c'est personne. À l'urgence, c'est pas là, c'est pas de nommer quelqu'un, c'est de démanteler de toute urgence ce repère de terroristes. Hein, faut arrêter avec ces orgies lubriques d'ayatollah dans des jacuzzis de pétrole. Hein, franchement, l'Institut du monde arabe. Et pourquoi pas bientôt à Paris une grande mosquée, hein, tant qu'on y est.
Ça existe déjà, la grande mosquée de Paris.
Quoi? Alors c'est quoi la suite? Les les tours de Notre-Dame transformées en minaret, c'est ça, hein, le Sacré-Cœur en hammam et l'Élysée en grand palais du grand vizir, hein, c'est ça.
Merci beaucoup monsieur de Villiers. Ségolène Royal, et vous, vous en pensez quoi de cette affaire?
Oui. Bah, écoutez, sur la Molikoum, hein, Pauline de Manard-Palerbe, ça va, moi, sœur Amdoulo. Oui. Bah, déjà, je pense que présidente de l'Institut du Monde Arabe, c'est un poste taillé pour moi, ouais, ça. Je suis celle qui connaît le mieux le monde arabe, puisque je suis né à Dakar. Hein. C'est vous dire si je lui connais en géopolitique. Hein. Puis depuis deux semaines, notez que je suis présidente de l'association France-Algérie.
Oui, on a vu, oui. Hein.
Alors j'espère que ce sera moi, Inch'Allah. Hein. Mais si. D'ailleurs, je remercie par avance le président Macron. Hein, pour ma nomination à venir, choukran, Sidi Macron. Vous voyez donc, je maîtrise parfaitement aussi la danse du ventre.
Je vois. Le ministre des Affaires étrangères a fait savoir qu'il prendrait le temps nécessaire pour trouver la personne idéale. J'imagine qu'il vérifiera le passé, le passif même de chaque candidat. Hein.
Vérifier le passé, le passif. Oui, mais ça m'arrange pas du tout, ça.
Ah oui,
bah oui, parce que s'il fouille un peu, il va vite voir que moi aussi, dans le temps, j'ai eu des relations très proches avec un homme qui préférait les femmes plus jeunes. Hein. Ah oui. Mais je ne le savais pas, il faisait ça dans mon dos. Puis bah, c'était pas au niveau d'Epstein, hein. C'était lui, c'était pas en jet privé, c'était en scooter. Mais tout le monde sait que dès que j'ai découvert le poteau rose, j'ai mis tout de suite fin à cette relation.
Ah, hein. Oui.
J'ai coupé les ponts, je suis clean.
Vous êtes blanc à mon
côté. Oui, comme Jack Lang, enfin, presque.
Quel est le programme, Alain?
Eh bien, avec les grandes gueules, entre 9h et midi, nous accueillons Karine Lemarchand. Elle vient présenter son documentaire sur l'immigration. C'est ce soir sur M6 et elle va débattre avec Bruno Poncet, Joël Dagosséry et avec Jean-Loup Bonamy. À tout de suite avec les GG.